Santé mentale, état du monde.
Ce n'est pas parce que l'Indochinois a découvert une culture propre qu'il s'est révolté. C'est parce que tout simplement, il lui devenait, à plus d'un titre, impossible de respirer. Frantz Fanon, peau noire, masque blanc, 1952. Bonjour tout le monde et à vous qui nous écoutez sur R22.fr. Ce troisième plateau radiophonique Santé mentale, état du monde s'inscrit dans le cadre de rencontres, d'émissions et d'ateliers pour comprendre à quel point nos équilibres psychiques dialoguent avec les troubles que traverse notre monde. Pour ce troisième numéro, nous avons tenté de questionner le colonialisme à travers ce qu'il fait à notre esprit. Et c'est sans doute pour cela qu'introduire ce plateau avec une citation de Fanon, celui qui fut psychiatre et militant anticolonialiste, peut nous permettre de comprendre à quel point l'expérience de l'individu colonisé le maintient dans un état d'aliénation permanent. Comment le regard porté par le colonisateur nous rend étrangers à nous-mêmes? Comment se désaliéner du regard de celui qui détient la justice, de celui qui détient la richesse, de celui qui détient la culture et celui qui crée le sens? Et enfin, comment désaliéner cet autre qui ne se doute pas un seul instant que le regard qu'il porte sur le monde est lui-même aliéné? Ce n'est pas parce que l'Indochinois a découvert une culture propre qu'il s'est révolté, c'est parce que tout simplement, il lui devenait à plus d'un titre impossible de respirer. Merci Alexandra d'avoir accepté notre invitation. Cet extrait ouvre aussi ton film « Derrière les fronts, résistance et résilience en Palestine » sorti en 2017. Film qui a scellé notre rencontre, puis notre amitié, et qui m'a à l'époque sorti de considérations figées pour me permettre de comprendre que les Palestiniens et Palestiniennes vivent et meurent sous un régime colonial. Alors que des images effroyables nous parviennent de Gaza, que des bombardements semblent n'avoir que le but de destruction totale, il nous a paru urgent et nécessaire de t'inviter aujourd'hui en vue de la situation. L'actualité nous le prouve ici, en France en tout cas. C'est une lutte pour maintenir des espaces de réflexion et ne pas se plier face à la censure. J'en profite aussi pour vous présenter davantage ce plateau qui a été co-bâti à quatre. À tour de rôle, Saoudade, militant décolonial, cuir, noir, syndicaliste et membre du collectif Harar. Moni, militante décoloniale, toi aussi, tu es membre du collectif Harar. Et enfin, Lucie, militante décoloniale et antiraciste, membre du collectif Horizon Palestine, et aussi psychologue.
I am signed on the BDS. But sometimes when you send pledges, I've experienced fear. I'll tell you the truth. I want you to ask about fear too. I'm exposing it. I must admit, I think of myself, everyone thinks I'm a very brave person. And I'm really ashamed that I'm really afraid.
Okay. I think it is about expectations, and sometimes it is in the good communication, well-intentioned communication, that some of the dynamics between an Israeli and a Palestinian show themselves. I want to tell you two incidents. One incident, I was going to Al-Najah University to present something, and I was stopped at Hawara checkpoint, and before I even saw the soldier or he talked to me, he sticked his gun in my window, put it on my chest, directly on my chest, and then he asked me for my paper. So this is not the most horrible experience. Many people go through worse experiences. Most Palestinians go through worse experiences. But these experiences make the threshold of fear for me different than yours, and some of the expressed Israeli fears, they are below my threshold. They don't cross the threshold. So it is about desensitization.
So it's kind of like out of the box this path of healing. And sometimes it passes through threshold and sometimes it doesn't. And
there is, I know Rivka, and I might empathize with Rivka the person and with Maya, the people that I know, but I don't empathize with the Israeli character or the Israeli collective that she brings in her narrative. And some of the declared fears are strategic, industrial, instrumentalization. We are living in a reality in which the more Israelis breathe,
je peux avoir de l'empathie pour Rivka ou pour Maya car je les connais, mais je n'ai pas d'empathie pour le personnage israélien ou pour le collectif israélien porté par son récit. Certaines des peurs révèlent de l'instrumentalisation stratégique et industrielle. Nous vivons dans une réalité où plus les Israéliens respirent, plus les Palestiniens étouffent. Je ne peux compatir aux besoins des Israéliens de respirer davantage, car cela signifie que moi, j'étoufferai davantage.
Merci. Lucie, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on vient d'écouter ?
On vient d'écouter la scène d'ouverture du documentaire d'Alexandra qui réunit des soignantes, dont Sama Jabr, qui est psychiatre en Palestine. De prime abord, cette scène montre des personnes dans un espace égalitaire. Ce sont des femmes, elles sont psychiatres. Cet espace de travail s'appelle un séminaire. Dans mon référentiel à moi, en tant que psychologue, je n'y réfléchis pas, mais je pense être plongée dans des codes qui me sont familiers. Des professionnels se retrouvent pour échanger sur leurs pratiques et sur des apports théoriques. Ce sont majoritairement, ici exclusivement, des femmes, comme régulièrement dans les métiers du soin. Et puis une psychiatre prend la parole et elle dit trois choses. J'ai peur, j'ai honte de le dire, mais j'ai peur. Elle veut entendre Sama Jabr sur ce sentiment de peur. C'est pour moi un premier point de bascule. La peur s'exprime. Alors un élément essentiel reprend place, sort du point aveugle dans lequel je l'avais laissé. Autour de cette table, elles sont femmes et psychiatres, mais une seule est palestinienne, toutes les autres sont israéliennes. Et c'est la psychiatre palestinienne Sama Jabr qui est convoquée à parler du sentiment de peur ressenti par une autre, une psychiatre israélienne. La scène se déroule en Israël. Le caractère asymétrique se fait jour. De quelle peur parle-t-on ? Celle d'avoir signé la campagne BDS. Ça, je peux comprendre. J'ai ressenti ce stress de m'associer à des mobilisations qui sensibilisaient à cette campagne. Je n'y ai jamais associé mon nom ni mon visage. C'est pourtant une campagne dont je partage les fondements et la nécessité. À ce moment des échanges, je pense encore que ces professionnels sont à égalité. Je sais pourtant que non. En psychologie, on appelle ça la dénégation. C'est un mécanisme de défense. Mais cette psychiatre israélienne est une alliée, une thérapeute. Elle a honte d'avoir peur, sous-entendu, elle ne devrait pas. Elle ne devrait pas puisqu'elle a une position dominante, dont elle a conscience. C'est donc une alliée. Pourquoi alors je ressens une ambivalence à son égard ? Pourquoi je commence à lui reprocher sa manière d'être alliée ? Je n'aime pas ce que je vois chez elle parce que je l'ai vu chez moi. Cette peur d'une place de privilégié, cette sorte de honte de le reconnaître. Sur quoi veut-elle entendre Sama Jabr ? Veut-elle qu'elle la soutienne dans la peur qu'elle ressent ? Qu'elle la valorise dans sa position de soutien ? L'aspect asymétrique insiste et prend plus de place. Et alors Sama Jabr parle, calmement mais précisément. Elle parle d'empathie, parce qu'elle connaît ses collègues. Elle parle de son seuil de la peur, qui est dans un au-delà d'une simple signature. Qui est d'emblée dans l'éprouvé de la menace de mort, du seul fait d'exister dans les yeux du colonisateur. Le renversement est total. Je suis à côté de Sama Jabr, je l'écoute et c'est saisissant. Autour de cette table, quel que soit le respect entre des psychiatres qui se connaissent, entre elles il ne peut y avoir que des travaux de recherche sur la pratique et la théorie. Entre elles il y a la colonisation, l'apartheid et ses conséquences, la tentation du génocide. Je ne peux pas être empathique avec le besoin des Israéliens de plus respirer parce que cela veut dire que j'étouffe plus. Et Sama Jabr m'embarque, grâce à Alexandra Dolz, vers ce qu'elle expliquait une nécessité. Appréhender la dimension politique en thérapie, celle-là même que j'aspire à pratiquer sur mon propre terrain professionnel. Cette scène dure 3 minutes. Et pour moi, elle dit tout. Par mes identifications singulières, qui ne sont peut-être pas celles de mes voisins voisines aujourd'hui. La thérapeute, l'allié, le colon. Pour moi, ce sont des figures en mouvement. Elles sont en moi, tout un petit peu, à partir de mon propre contexte. Mais dans ce film, j'ai suivi le regard de la caméra d'Alexandra et je me suis accrochée fort à sa main, à sa pratique, à son éthique.
Merci Lucie, parce que on a passé énormément de temps à décortiquer ce film et on s'est justement posé et ce qui nous a traversé, c'est que on avait chacun et chacune une phase d'identification aux trois personnages, aux trois figures dans ce film, qui étaient le colon, l'allié et la thérapeute. Et c'est vrai que là, toi, tu as parlé de bizarrement, on s'était pas dit ça au début. C'est qu'au début, c'est vrai que moi, j'avais plus l'impression que tu t'identifiais à la figure du thérapeute, puisque ce que tu pratiques dans la vie de tous les jours. Et moi, je me rappelle que je m'étais à prime abord identifiée à cette alliée, mais aussi à cette personne qui était colon, aussi malgré elle, en tout cas. Parce que, comme toi, je pense qu'on est tous quelquefois amenés à sortir, en fait, de notre cadre de confort et dans nos engagements multiples, dans nos travaux, dans notre manière d'être sur Terre. En tout cas, moi, à titre personnel, je me suis dit, bah oui, la peur qu'elle exprime au début, elle est tout à fait légitime quand il y a quelque temps, au tout début du conflit, quand les manifestations étaient interdites, par exemple, là, 7 octobre, les personnes qui tentent de sortir, on les empêche de le faire. Qui tentent de soutenir, on empêche de le faire. Et moi, c'était une période où je me suis retrouvée à réellement questionner mes capacités et mes peurs d'aller au-delà, en fait, de ce que je considère comme étant des blocages à titre personnel, parce qu'on a chacun un contexte de vie aussi différent, quoi. Moi, c'était plutôt administratif et j'avais peur d'être prise pour cible dans une société qui est en plus de plus en plus contrôlée et prise à partie, et que, en tout cas, au niveau administratif, qu'on me sanctionne. Donc au début, je me suis pleinement identifiée à cette alliée qui souligne, en fait, que le peu qu'elle fasse, eh ben, la met déjà en état de danger. Et là, tout d'un coup, quand le film commence et que Sama, en fait, prend la parole, c'est comme une manière pour moi de remettre, en fait, tout à sa place. C'est de se dire qu'en fait, on est dans une société multiple où chacun et chacune est engagé, en fait, avec ses propres blocages, ses propres raisons, aussi ses propres connaissances, hein, tout simplement, son propre contexte. Mais on ne pouvait pas nier que la réalité, en tout cas sa réalité, son quotidien avec la violence, ça, tu l'as pas, on l'a pas traduit, mais c'est qu'elle explique à cette femme que, par exemple, elle, chaque fois qu'elle prend la route et qu'elle se retrouve à un checkpoint, plus d'une fois, en fait, avant même que le policier lui demande ses papiers, le soldat, et ben, elle a une arme qui est pointée vers elle, quoi. Et là, en fait, le rapport à la peur et le rapport à, on va dire, au fait de se sentir en danger, il change. Et je pense que ici, en tant que personne noire, femme en France, avec une situation administrative qui est ce qu'elle est, oui, je me sens fragilisée. Et oui, à plus d'un titre, je me sens quelquefois aller au-delà de moi. J'essaye toujours aussi quelquefois de ramener à juste titre la capacité de chacun d'être conscient de la place où il est et de donner, en fait, son engagement là où il le donne. Et ce que je trouve fort dans le film, c'est qu'elle leur rappelle juste que sa vie, sa réalité est différente, mais elle les rejette pas non plus. Et il y a quand même cette capacité forte qu'a Sama de, quand elle a une alliée devant elle, de le reconnaître aussi. Et ça, c'est vrai que commencer le film comme ça, ça m'a tout de suite projeté dedans, quoi.
Merci pour ces différentes prises de parole. C'était super saisissant, ce que vous avez dit toutes les deux. Ça m'a beaucoup aussi fait penser au fait que... Enfin, j'ai l'impression qu'on va se redire, je vais pas répéter, mais qu'il y a des enjeux de, d'individualité, de subjectivité, mais que, comme elle le dit bien dans l'introduction, on n'oublie pas le contexte. Mais comme dans nos discussions en off, j'aimais bien aussi me dire, reprendre le triptyque colon, thérapeute, allié, et prendre, pas son pendant inverse, mais ce que ça peut être aussi de, dans un autre sens. C'est-à-dire la personne qui est prête à être dans un processus de thérapie, personne qui a besoin d'avoir des soins, de, des soins mentaux. Quand je pense à, par exemple, cette figure-là, je pense au film, et à un moment où elle-même, Sama Jabre, dit que, indépendamment du fait que c'est une spécialiste qui traite les troubles mentaux, elle se rend compte que la situation coloniale fait que tous les jours, elle fait face à une misère sociale extrême, et elle dit elle-même, elle parle de psychopathologie du quotidien. C'est aussi ça, c'est qui est l'allié, mais qui est en fait la personne palestinienne. Ne pas oublier de la replacer, et qui est l'allié, et qui sont finalement les adversaires, pour ne pas dire les ennemis. Mais j'ai l'impression d'avoir tout et rien dit en même temps, c'est marrant. Mais voilà, c'est ça que ça m'a évoqué. Et sinon, effectivement, cette scène d'introduction aussi est exceptionnelle dans sa capacité à nous remettre dans le contexte. À nous remettre dans le contexte parce qu'en France, personnellement, bah, du coup, moi, je suis Sodade. Comme l'avait dit la présentation tout à l'heure de Lauriane, je fais aussi partie de ce qu'on pourrait appeler les Sud du Nord, comme, et du coup, même en reconnaissant le fait de ne pas être blanc, je suis blanchi. De la même manière que, de toute façon, les catégories raciales se construisent, se reconstruisent historiquement et géographiquement. De fait, nos modes de vie, le fait de vivre en France, et encore, même entre ça, du coup, entre des personnes, il y a des différences par rapport à des situations administratives qu'on en a parlé justement il y a quelques instants. Mais il y a le mode de vie, notre mode de vie occidental est lié à un impérialisme. Et après, du coup, ça donne envie de questionner qu'est-ce qu'on peut faire depuis notre position, mais ça, on le verra plus tard. Mais voilà, je trouve ça important à replacer comme ce qui a été dit auparavant.
Donc la question était, Alexandra, pourquoi avoir choisi cette scène pour introduire le film ?
Bonjour à tout le monde. Et déjà, je vais commencer par remercier Lauriane, Lucie, Sodade et toute l'équipe qui est là autour de l'organisation de ce plateau, parce que c'est ouvrir un espace de réflexion, d'autodéfense, peut-être même thérapeutique aussi, et en tout cas absolument politique. On est le 9 décembre, ça fait 2 mois. Qu'il y a une intensification d'un génocide en cours en Palestine. Donc c'est ça le contexte dans lequel on parle aujourd'hui également. Et voilà, je voulais vous remercier pour l'espace qui est offert ici, parce qu'on va prendre le temps de décortiquer les choses. Et de finalement commencer à aussi fissurer les autocensures qui peuvent être en chacun et chacune de nous. Et dans les esprits des gens qui nous écoutent également. Cette scène, elle est très importante, effectivement. C'est la scène d'ouverture du film. Donc déjà, d'un point de vue cinématographique, il s'agissait de situer où on est et qui est cette femme, qui est cette psychiatre, psychothérapeute palestinienne, Sama Jabre, et quel est le contexte dans lequel on est. Et pour vous dire, par exemple, cette scène a été tournée à Tel Aviv, donc en Palestine de 48, que d'autres nomment Israël. Et pour arriver dans ce lieu, on a traversé plusieurs checkpoints aussi. Sama habite à Jérusalem-Est, elle travaille en majorité en Cisjordanie. Mais déjà, pour arriver à ce lieu, on traverse des checkpoints. Et dans cet espace, c'est la seule palestinienne, donc la seule colonisée, en face de thérapeutes israéliennes. Et Sama choisit les conditions de cette rencontre et choisit ses interlocutrices, ses interlocuteurs israéliens. Dans le sens, entre guillemets, l'énergie et le temps qu'elle met, il est conditionné au fait que les Israéliens et les Israéliennes en face d'elle sont clairs sur la question de l'antisionisme et de leur engagement concret. Donc là, ce sont aussi des thérapeutes autour de cette table qui sont capables de signer des pétitions, d'avoir des prises de position publiques pour critiquer le colonialisme. Et c'est ça qu'elle pose. Donc c'était aussi ça, ce contexte. Ensuite, cette scène, elle est vraiment à multicouche. Parce que, donc, à la fois, comme tu l'as rappelé, Lauriane, elle explique, Sama, qu'elle n'a pas le même threshold, le même seuil de réaction à la peur, parce qu'elle parle de désensibilisation. Tellement l'expérience palestinienne est une expérience au quotidien de violence symbolique, de violence matérielle. Et la figure du checkpoint est déterminante puisque c'est le territoire est quadrillé de plus de 200 checkpoints et c'est à chaque fois ce que le sociologue palestinien nomme des cérémonies de l'humiliation. Et ça lui est arrivé à elle, comme à tout Palestinien et à toute Palestinienne, effectivement, un jeune soldat, parce que là on parle d'Israéliens qui ont 18-19 ans, qui mettent en joue leurs armes tout en demandant les papiers. Donc ça, c'est un niveau de réalité qu'elle leur rappelle au moment où Rivka, donc une des thérapeutes israéliennes, exprime sa peur d'être visible en tant qu'israélienne qui est soutien du BDS. Et puis, il y a une autre thérapeute qui soulève la question de « Oui, mais est-ce que vous pensez pas que si vous n'avez pas d'empathie pour le collectif israélien, est-ce que vous ne pensez pas que ça n'empêche pas une sorte de guérison ?» Et là, Sama répond à juste titre. Cette idée d'empathie inter-individuelle, avec, encore une fois, des thérapeutes qui sont très clairs, qui sont décoloniaux, mais par contre, que tout ce qui relève de l'histoire de la construction d'Israël et de l'histoire d'un quotidien et des souffrances des colons, ça, elle ne peut pas valider ça et elle n'est pas en empathie avec ça. La scène d'ouverture d'un film, elle est toujours assez déterminante. J'ai trouvé que il y avait beaucoup de choses qui se dégageaient aussi de sa clarté de positionnement, de sa clarté d'esprit, tout en nouant des alliances, comme tu le disais. Des alliances conditionnées. Et ce que je trouvais aussi très fort, c'est la métaphore, en fait, qu'elle utilise sur la respiration. Et là, je veux bien qu'on revienne dessus. Donc, ce film, il a été tourné entre 2013 et 2015. En France, aux États-Unis et aussi en Palestine, il y avait le mouvement contre les violences policières aux États-Unis, Black Lives Matter, avec ce slogan de « I can't breathe », « Je ne peux pas respirer ». Alors, vous repréciserez peut-être après, mais en tout cas, en Palestine, en 2014, il y avait des Palestiniens dans la rue qui avaient des pancartes « I can't breathe », en soutien également au mouvement lié à la mort de Eric Gardner. Et donc, c'est une métaphore qui était déjà présente en moi pour construire l'imaginaire du film. Et quand ça m'a dit, nous sommes dans une réalité où plus les Israéliens respirent et plus les Palestiniens étouffent, ça peut sembler étrange au premier aspect, parce qu'on se dit, mais attends, l'air c'est infini. Enfin, il peut être pollué, mais il est a priori infini. Sauf que, pour moi, c'est une métaphore des ressources, déjà, dans le sens... La colonisation, c'est ça, c'est aussi très matériel, c'est aussi un vol des ressources. Vous nous volez l'eau, vous nous volez la terre, vous nous volez notre temps, etc., etc. Vous nous volez nos rapports à nos corps, nos intimités, nos vies amoureuses. Bref, la colonisation est un vol perpétuel. Donc à la fois, il y a cette idée-là, sous cette métaphore, mais moi, elle m'a aussi inspiré la figure du plaquage ventral. C'est-à-dire que pour moi, la colonisation, c'est aussi un peuple qui vit au-dessus d'un autre, qui écrase un autre, qui fait que il ne peut plus respirer.
D'ailleurs, on a commencé ce plateau radiophonique avec une citation de Frantz Fanon, qui débute aussi ton film, et qui parle de l'impossibilité de respirer. Et qu'est-ce qui fait, en fait, on le retrouve aussi dans ton précédent film, Mujahidat, où on se questionne de qu'est-ce qui met, en fait, une population en mouvement. Et on en revient toujours à l'impossibilité de se dire que on peut vivre, en fait. C'est juste qu'on peut plus vivre, on peut plus respirer. On en vient aux besoins primaires qui sont le besoin de prendre l'air, respirer, vitaux même. Là, en fait, l'action s'enclenche. Et toi, tu dis que en tout cas dans le contexte de création du film, tu vois que tu le ramènes vers les mouvements de contestation contre les violences policières et les meurtres policiers. Moi, je le ramènerais même en fait dans une pensée décoloniale qui ramène en fait la nécessité pour le colonisé, au bout d'un moment, de se mettre en action parce qu'en fait, ses organes vitaux en fait en dépendent. Et j'ai trouvé vraiment que la boucle avec Sama ramenait en fait vers Fanon. Et je trouve d'ailleurs tout ton travail finalement ramène vers Fanon. Et j'avais une question, c'est est-ce que tu pourrais expliquer davantage aux auditeurs, on l'a un petit peu évoqué, voilà, Sama est psychiatre, elle était même dirigeante de l'hôpital de Ramallah.
Elle était chef du CMP de Ramallah. Aujourd'hui, elle est directrice de l'unité de santé mentale pour le ministère de la Santé palestinien.
Et j'avais une question. Comment est-ce que tu peux amener à faire comprendre aux personnes qui nous écoutent ou même celles qui sont présentes ici les liens qui unissent le travail lié à la santé mentale et le travail politique de l'analyse du colonialisme pour Sama?
En fait, ce que j'ai trouvé assez puissant quand je suis tombée sur ces écrits qui ont été traduits au départ majoritairement par le site Info Palestine qui est devenu aujourd'hui Chronique de Palestine, c'est qu'en fait, de sa position de thérapeute, à la fois elle utilise des outils classiques qu'elle va décoloniser également, les catégories de la psychiatrie, mais... Ok, à la fois, elle dit bien que comme dans toute société, il y a des troubles psychiatriques en Palestine, mais par contre, elle met bien en garde de ne pas pathologiser les souffrances politiques, les souffrances qui sont le produit d'un système d'oppression. Concrètement, quand une maison est démolie par châtiment collectif, quand Israël démolit la maison d'une famille entière parce que un jeune de 12 ans a envoyé une pierre sur un soldat dans son tank, ça génère évidemment des souffrances et un désastre psychologique, mais ça, elle dit bien que c'est des souffrances à comprendre par l'analyse politique. Donc déjà, il y a cette idée chez elle de bien faire la différence.
Que justement beaucoup de psychiatres travaux en tout cas occidentaux ont du mal en fait à faire parce que d'une partie ou de l'autre on est toujours dans l'essentialisation. Et ce que j'aime énormément avec l'approche de Sama, c'est qu'elle est très très perspicace dans ce qui appartient en politique, ce qui appartient au champ du travail psychiatrique, mais ce qui en fait renvoie, comment se renvoie les deux domaines sans cesse, mais tout en gardant en fait une analyse propre et tout en gardant aussi une réelle conscience du quotidien des Palestiniens qui est à la fois proche de ce que pourraient vivre d'autres peuples colonisés, mais en même temps qui a sa spécificité vraiment particulière. Et c'est ça que j'ai réellement trouvé fort dans son travail.
Bah, c'est vrai que j'invite nos auditeurs, auditrices à aller voir le film, à aller lire son livre, à aller lire les articles qu'elle a en ligne pour vraiment creuser la pensée parce que là, on va survoler certains aspects. Mais c'est vrai que dans son travail de décolonisation de la psychiatrie, il y a à la fois, elle affiche, elle met en évidence la psychiatrie coloniale israélienne. De quelle manière les Palestiniens, quand parfois ils sont soignés chez des Israéliens, dans les instituts israéliens, il y a des catégories type hystérie, malingering, ment, enfin joue la comédie.
L'idée qu'ils simulent, il y a toujours du doute.
Et exactement, il y a toujours une suspicion, du doute. Donc il manque un rapport de confiance de toute manière entre le colonisé et le thérapeute colonisateur, mais qu'en plus il y a des sous-estimations, des négligences. Donc à la fois elle a un travail où elle va aller analyser et décortiquer le caractère colonial de la prise en charge des patients palestiniens. À côté de ça, elle va aussi parler de comment il y a beaucoup d'internationaux thérapeutes qui viennent en Palestine, parfois avec des outils qui sont pas forcément adaptés aussi, avec des outils occidentaux de catégories de pensée, du DSM-5, etc. Elle parle du PTSD, par exemple, qui est un outil qui a été donc Post-Traumatic Stress Disorder, où elle dit que parfois c'est cette étiquette qui est utilisée pour labelliser les personnes palestiniennes, alors que dans post-traumatic stress disorder, il y a l'idée de post. Or, en Palestine, ce qui a créé le trauma est toujours là. La menace est toujours là. La menace est constante. Donc voilà, c'est encore un exemple. Et l'apport également essentiel de son travail, c'est de poser la résistance comme thérapeutique.
Il y a aussi une idée, l'idée pour nous a été de mettre en lumière certaines notions qu'on trouve dans ce film, et notamment des notions qui ont résonné en nous, et pour mieux comprendre justement cette réalité du Palestinien colonisé, et le principe de colonialité du pouvoir, théorisé par Hannibal Kahane. Et je vais évoquer certaines notions, donc de toute façon on pourra toujours... En parler de ce que c'est la colonialité du pouvoir après. Mais je vais évoquer certaines notions à partir desquelles on va pouvoir rebondir tout à chacun. Si je vous dis identification à l'agresseur, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Alors, qu'est-ce que ça m'évoque ? Identification à l'agresseur par rapport au film. Du coup, on va parler du film. J'invite encore une fois les auditoristes à aller voir et revoir et revoir ce film génialissime, important. L'identification à l'agresseur, c'est l'idée que l'oppression, elle est matérielle, mais elle est mentale. Il y avait un truc que faisait un collectif qui s'appelle la BAN, la Brigade Antinégrophobie, qui parlait de neurocolonisation. L'une des chaînes mentales de la colonisation israélienne, c'est de réussir à aller jusqu'à envahir l'esprit des personnes palestiniennes et les faire s'identifier à l'envahisseur israélien, les faire s'identifier aux intérêts d'Israël et se dire que finalement c'est pas si mal en fait qu'est Israël, parce qu'au moins on n'est pas envahi par Daesh, puis le Fatah il sert à rien. Je dis ça de manière assez légère et j'espère que ça trouble pas trop les gens qui écoutent, mais c'est presque une citation mot pour mot d'un propos d'un conducteur de taxi. C'est ça, c'est l'idée que la violence coloniale est telle qu'elle envahit l'esprit des personnes colonisées et qu'elle les empêche de penser de manière ne serait-ce que critique, mais voire même défiante, l'autorité occupante. J'ai presque envie de faire des parallèles avec ce qui arrive ici en France, mais on va en parler tout à l'heure, mais c'est un peu l'idéologie de l'assimilation qu'on connaît notre bonne nation française, le truc de, comme dirait Louisa Yousfi, s'intégrer, c'est se désintégrer. Et c'est ça, peut-être, l'assimilation à l'agresseur. On pourrait peut-être aussi faire un parallèle avec... là encore, dans le film, on en parle, dans une autre mesure, avec... les parallèles ont leurs limites, mais là, je pense que c'est aussi super pertinent par rapport aux violences domestiques. S'identifier à l'agresseur, c'est peut-être dans cette situation-là, si je cite bien... sous le regard bienveillant de Alexandra, je vais essayer de pas me planter. C'est l'idée que... dans une situation de violence domestique, on peut s'identifier à l'auteur d'agression physique, enfin l'auteur d'agression pas que physique, l'auteur de violence dans la relation conjugale toxique, souvent un homme, et se dire que, par exemple, l'enfant va se dire finalement, peut-être que la victime des agressions conjugales, elle a un peu cherché, en fait. En fait, je peux le comprendre un peu. C'est vraiment assez horrible quand on le décrit comme ça, et en même temps, c'est un truc qui parle à de nombreuses personnes qui sont dans des situations de domination coloniale, mais pas que. Et je pense que c'est pas pour rien que ça nous a parlé à tous ici présentes. Je sais pas si ça suscite des réactions, ce que je viens de dire.
Mais l'identification à l'agresseur, c'est une vieille notion. Et c'est une notion aussi très moderne. C'est important que ça mal utilise. Moi, je trouve que dans la situation coloniale, elle est particulièrement pertinente à déplier. Mais elle est aussi difficile à expliquer. Moi, j'ai rencontré cette notion en lisant Ferenczi, qui parlait de la confusion des langues. Ferenczi, il a développé ce concept-là à partir justement des violences intrafamiliales. Il parlait de la confusion des langues de l'enfant dans l'adulte. Donc il parlait et des rapports de domination enfant-adulte et d'une certaine manière de comment l'enfant blessé restait à l'intérieur de la personne devenue adulte, l'amenait à évoluer d'une manière à se défendre contre l'oppression qu'il avait vécue enfant en devenant agresseur lui-même pour garder le contrôle. Donc c'est une forme d'adaptation dans certains contextes, à des histoires de domination qu'on a connues, mais auxquelles on a résisté. Et une forme de résistance, dans ces cas-là, c'est aussi de chercher à dominer la situation en devenant un peu le bourreau des autres. Mais en devenant le bourreau des autres, parce qu'on ne peut pas demander des comptes à celui ou celle qui nous a blessés, ou à la situation qui nous a blessés. Alors on va demander des comptes ailleurs. Ça vaut dans les situations individuelles. Moi, je l'ai appris comme ça, dans des situations individuelles, dans des groupes sociaux. Et en m'intéressant à la colonisation en Palestine, en fait, c'est un concept qui s'élargit à un état politique, à une organisation sociale politique. Et c'est la question d'une forme de dévoration, une emprise. Alexandra parlait tout à l'heure, c'est un vol perpétuel, la colonisation, c'est un vol des esprits, c'est un vol des terres, c'est un vol des cultures, c'est un vol de la mémoire, et du coup c'est un vol d'identité. Et donc c'est pas conscient hein, l'identification à l'agresseur, c'est pas un truc qu'on calcule, hein. c'est une issue qu'on trouve, quoi. C'est une stratégie inefficace à certains endroits, mais c'est quelque chose un peu de survie, quoi. Moi, c'est ça qui m'a parlé aussi dans la manière dont on parlait dans le documentaire, dans sa manière qu'elle a de le travailler, parce que c'est très pervers, finalement, dans une situation coloniale, de venir dire, d'un côté, le colonisateur, il se fait passer pour la victime, sur d'autres scènes. De l'autre côté, il vient dire au colonisé, je vais vous protéger. Alors que c'est lui l'agresseur. Ce processus-là, on le retrouve dans des situations d'emprise, qui vient renverser la faute du côté de la victime. Comment ça? Tu résistes et tu protestes, alors que je ne suis là que pour te protéger. Il y a des choses comme ça. Ou pour favoriser ton émancipation.
Les bienfaits de la civilisation.
Exactement. Ouais. Ou pour te civiliser. Vous voyez, cette rhétorique-là. Moi, ça a fait écho pour moi à ça. Après, il y a quelque chose de vachement plus compliqué aussi sur la colonisation israélienne et sur les partenariats qu'ils font, où dans leur manière de protéger, de développer des savoirs, ils vont développer aussi des savoirs sur comment on s'occupe d'un trauma. Donc c'est eux les spécialistes, et pour cause.
Du coup, moi c'est Yoki, je fais partie aussi de la RAR, c'est l'action révolutionnaire antiraciste à Rennes. Et je vais pas avoir énormément l'habitude de parler au micro, ça se trouve je vais partir dans tous les sens, mais c'est juste que quand vous parlez d'identification, ça me fait rappeler un truc, que ce soit l'identification à l'agresseureuse en termes de VSS ou en termes de contexte colonial, moi ça me fait penser au fait que la violence que commet l'agresseureuse, là je prends en contexte général, mais ça peut très bien se mettre dans un contexte, et ça se met très bien dans un contexte colonial, il dépossède totalement la personne sur laquelle il commet la violence. Il la dépossède totalement de son arbitraire, de sa possibilité d'agir et de faire. Et par cette dépossession que l'agresseureuse fait constamment, il fait croire à la personne, du coup la personne colonisée, qu'il n'y a plus aucune possibilité d'avoir un contrôle sur sa vie, ou une possibilité de pouvoir choisir ou d'agir consciemment, de possibilité de mettre même un message politique, car l'agresseuse y fait, ou du coup le colonisateur, fait penser que c'est lui qui a les, comme tu as très bien expliqué Lucie, que c'est lui qui a toutes les connaissances, que c'est lui qui a la capacité d'avoir toutes les ressources, et donc que c'est lui qui doit diriger le colonisé, qui est, que le colonisateur présente comme un sous-humain. Et que ses conséquences a des conséquences très fortes psychiques, ou même très fortes politiquement, où la personne qui subit cette violence, surtout dans un contexte colonial, se sent totalement dépossédée. Et a l'impression que c'est que en choisissant ou en acceptant le chemin que lui offre le colonisateur, que c'est comme ça qu'il va pouvoir trouver une identification. Sauf que cette identification, elle va se résumer qu'à une violence perpétuelle qui va faire que ce sera toujours par l'œil du colon que le colonisé va pouvoir s'identifier. Et moi, ça me fait penser à un message, enfin une parole que m'avait dit un étudiant sénégalais qui était en France pour faire ses études et qui me parlait un peu de la situation au Sénégal par rapport à la population, et qui me parlait, lui, c'était ses mots, de complexe d'infériorité, car il avait l'impression que tout Sénégalais, Sénégalaise voyait son avenir en dehors du Sénégal et en France. Que c'était leur but d'aller en France, que c'était là que leur avenir devait être fait, et que en tant que Sénégalais, Sénégalais, c'était ce chemin qu'ils devaient prendre. Et donc lui, il appelait ça le complexe d'infériorité, qu'il élargissait à toute la population africaine.
C'est intéressant que tu te dises ça, parce que ça, pour le coup, c'est, ça me fait associer. Alors, je sais pas, c'est juste une petite parenthèse, mais ça me fait associer au travail de Manoni, qui a été repris justement par Livio Boni et Sophie Mendelssohn, qui ont écrit « La vie psychique du racisme ». Et qui développent, qui reprennent en fait cette notion-là qui avait été développée aussi dans un des ouvrages de Manoni sur la question de la psychologie des colonisés et des indigènes. Et alors, ça reprend cette notion-là de pourquoi donc ils ont un complexe d'infériorité et de l'influence de la colonisation, de l'impact de la colonisation sur cette notion-là et sur ce ressenti-là. Donc ça m'a fait associer à ça. Donc vous pourrez aussi avoir un petit peu d'informations sur le sujet, en tous les cas, avec le travail de Livio Boni et Sophie Mendelssohn.
De toute façon, pour ceux qui sont intéressés, vous retrouverez sur le site toutes les références, voilà, tous les auteurs qu'on cite, et ça sera en libre accès, et du coup, vous pourrez avoir des ressources comme ça.
Non, ça me rappelle... Du coup, j'ai passé du temps en Algérie pour le premier documentaire pour Moudjahidat sur des engagements de femmes dans la guerre de libération de l'Algérie. Et du coup, en Algérie, c'est la première fois que j'ai entendu des gens, ils disaient, c'était une insulte de dire espèce de complexé. C'était une insulte un peu tendre aussi. Mais voilà, il y a des manières de prendre en charge les effets de la colonisation dans la culture populaire et l'humour, en fait. Sur l'identification à l'agresseur, peut-être situer des phrases, enfin, reciter des phrases fortes de Sama dans le film, parce que cette notion-là, elle l'aborde donc dans un texte qui s'appelle « Une oppression intériorisée, une autre perte pour le peuple palestinien » que vous pouvez retrouver en ligne ou dans son livre. Et donc elle déploie comme ça une série de symptômes en fait qu'elle voit comme étant les conséquences de l'oppression. Et donc dans l'identification à l'agresseur, elle raconte un patient qui dit que en vacances il ira pas à Eilat, un patient palestinien. En vacances il ira pas à Eilat parce qu'il y a trop d'arabes là-bas. Où elle dit aussi, elle raconte comment dans un épisode de maniaque, pour restituer un sentiment de puissance, un de ses patients commence à parler en hébreu. Elle va donner des exemples très précis de comment la culture du dominant devient la culture à laquelle on a envie de s'identifier, parce que c'est celui qui gagne, parce que c'est la force, en fait. Et ça, ça elle explique aussi comment, quand il y a un tel degré d'écrasement et d'oppression et d'impuissance, on en vient justement à vouloir être dans le bon camp, à s'identifier dans le bon camp. Et donc, je trouve ça fort, parce que de commencer à mettre des mots là-dessus, déjà pour moi, en France, ça permettait de parler de la Palestine d'une nouvelle manière et peut-être de créer des ponts. Parce que, en fait, c'est ça aussi que Israël empêche. C'est que les narrations, que les subjectivités palestiniennes nous arrivent pour empêcher les identifications. Et cette question de comment chaque être humain, alors je ne sais pas si c'est universel, mais en tout cas, il y a des analogies, il y a des choses qui peuvent parler dans comment on réagit face à l'oppression. Ça permet de tisser des ponts, y compris sur les gens qui vivent le post-colonialisme en France et le colonialisme. Et à juste titre, tu soulevais, Sodade, également comment l'approche féministe dit de ça aussi. Comment, quand on subit des violences en tant que femme, en tant que queer, en tant qu'enfant, en tant qu'homme parfois aussi également, on va trouver des excuses à l'agresseur. On va se sentir coupable et on va lui trouver des excuses. Et donc, pour pouvoir se libérer, parce que c'est ça ce dont il est question dans le travail de Sama, c'est que cette décolonisation, elle ne peut se faire qu'avec une libération des esprits.
Justement, on en revient un peu aux questions qui ont marqué l'introduction de ce plateau. C'est comment se désaligner du regard de celui qui détient la justice, de celui qui détient la richesse et comment se désaligner du regard de celui qui détient la justice, de celui qui détient la richesse, de celui qui détient la culture et celui qui maintenant crée le sens. Après, il y a vraiment énormément de ponts, en tout cas, à faire, notamment sur l'aspect spirituel aussi, qui est très très marquant. C'est quand même comment est-ce qu'on tue un dieu, comment est-ce qu'on tue des croyances et qu'on les remplace aussi. Et symboliquement, c'est fort en fait pour le coloniser. J'ai pas la référence exacte, mais en tout cas, il y a Fanon dans nos discussions, on en parlait un moment. C'est la réaction du colonisé quand en fait il constate que le colonisateur a réussi à tuer ses dieux, a réussi à dire bah tu vois, je suis plus fort, ça marche. Tu vois, genre moi je sais faire mes récoltes avec ma science et ça marche mieux, tu vois. Et comment est-ce qu'en fait tout un système de valeurs se retrouve en fait lui-même dominé, lui-même dévalorisé. Et ça c'est une force d'arriver comme ça en puissance, en pas le choix en fait, pas le choix, parce que nous avons les capacités de mettre en œuvre ce que nous considérons être la vérité, c'est qu'on est supérieur. Et on va vous le prouver. Du coup, on en arrive à un deuxième terme. Une deuxième notion qui traversait le film, et c'est celle de trauma. Moi, premièrement, en me repenchant un tout petit peu sur le film d'Alexandra et surtout sur les échos, parce qu'on va en arriver à la deuxième grande partie, mais justement, on est en train d'y glisser tout doucement. C'est à quel point, en fait, tout à l'heure, tu en parlais, Saoudade, de la psychopathologie du quotidien. Et dans les manifestations de ce trauma permanent, il y a la question de l'humiliation. Et Sama, qui, en fait, explique que pour elle, l'humiliation est la base politique de l'occupation. Et c'est par ce biais, même avant, en fait, quand un soldat introduit une arme dans sa voiture, une partie d'elle sait qu'il ne va pas la tuer, mais une partie d'elle sait qu'il est en train de lui foutre la pression, en fait, tu vois, qu'il est en train de la remettre à sa place en disant bah, « j'ai droit, en tout cas, de le faire et tu n'as pas possibilité de moufter ». Et il y a plein de passages du film, en tout cas, qui parlent aussi des checkpoints. des heures innombrables que les gens passent au checkpoint, qui arrivent à la nuit justement pour faire la queue pour passer ces checkpoints là. Le fait qu'un checkpoint, on peut tout te demander. Enfin, c'est une découverte, peut-être, tu vois, c'est un événement de chaque instant où en fait tu peux être surpris par à devoir répondre en tout cas aux exigences du colon. Pour te plier, en fait, à ce passage, parce que toi, c'est ta nécessité de passer. Et moi, ça me ramenait, en fait, aussi aux travaux, parce que je trouvais ça intéressant de construire des ponts, et à la fois avec Mujahidat. Donc, la colonisation algérienne et celle des Palestiniens. C'est une psychologue qui s'appelle Karima Lazali, psychanalyste, qui a écrit Le trauma colonial. Et du coup, en fait, elle s'intéresse à ce que la colonisation française a fait à la société algérienne. Et du coup, en fait, chez ces patients qui sont ici, donc c'est post-colonial, il y a plein d'éléments, en tout cas, qui renvoient aussi aux travaux et aux constatations que fait Sama. C'est que le trauma, il se traduit dans la discontinuité des histoires personnelles. C'est qu'il y a toujours, en fait, des choses dont on ne se souvient pas, des choses qu'on a mis de côté, des gens dont on se souvient pas, parce que ces gens, en fait, bizarrement, ils ont disparu au bout d'un moment dans la famille. En tout cas, les disparitions familiales, les discontinuités aussi dans les histoires, dans les déplacements. Cette notion de... où elle associe trauma, humiliation, identification à l'agresseur. Où, en fait, ça fait la boucle, quoi.
Une part très importante du documentaire... fait place aussi à la torture. La torture dans les prisons, dans les geôles israéliennes contre les prisonniers politiques palestiniennes. Je dis politique parce que je fais partie de ceux qui pensent que dans une situation coloniale, il n'y a pas de prisonniers de droit commun. Moi, je pense en tous les cas, dans la situation de la Palestine, ils sont tous et toutes des prisonniers politiques. D'autant qu'Israël... enferme aussi des enfants de plus en plus jeunes. Sur la question du trauma, je pense qu'effectivement, Sama, elle développe très bien ça sur l'idée du trauma continu, de par l'humiliation, de par les tortures, de par le pouvoir colonial qui prend droit de vie et de mort sur la population palestinienne. Elle explique aussi, il arrive un moment où le corps et le cerveau ne peuvent plus intégrer toute la pression traumatique de la situation coloniale. Et elle explique très bien les symptômes, du coup, des personnes qui se développent. D'où l'intérêt de ne pas se coller à des tableaux nosographiques avec des pathologies psychiatriques, telles le DSM. Mais ça, c'est une... Enfin, moi, je suis psychologue, c'est moins ma question. Moi, je pose pas de diagnostic. Ça, c'est vraiment une question de psychiatre. Et donc, je comprends que ce soit une question au cœur de la pratique de Sama, de faire comprendre qu'il faut aussi se détacher de la question du trouble psychiatrique ou du non-psychiatrique, de ce que pourraient être ces symptômes-là. La question du contexte colonial, elle est essentielle, mais la question de comment on accompagne les personnes et du coup de comment elles peuvent régler un peu leur trauma, en fait, c'est comment ils peuvent supporter là actuellement, de manière justement à ce que la résistance devienne une manière de résoudre une partie du trauma. Actuellement, il n'y a pas d'autre choix que d'en passer par le collectif. On ne peut pas faire tout seul. Et le colonisateur, il est aussi très au courant de ça, puisqu'il passe son temps à détruire le collectif palestinien. Et à empêcher, comme le disait Alexandra, le fait que les récits, les narrations, les besoins passent au-dessus des frontières pour qu'on puisse aussi se mobiliser en soutien à la population palestinienne. Ça fait partie du trauma aussi, de se retrouver tout seul en tant que peuple, presque, isolé en tous les cas, et aux mains d'une volonté génocidaire. Et quelque chose là qui dépasse l'entendement, qui dépasse la représentation, et qui fait, ça fait péter des cerveaux qui jusque-là étaient assez bien situés et basés à peu près, mais là on est dans une étape de destruction telle qu'on n'en est plus non plus à se dire trauma, pas trauma, machin, symptôme, pas symptôme. Enfin, on est dans un au-delà.
En fait, j'ai Sama sporadiquement, parfois en ligne ces dernières semaines, difficilement, parce qu'en réalité, elle est déjà, vous la connaissez, c'est déjà une usine, enfin, c'est une machine de guerre de travail, vraiment, mais là, encore plus ce que jamais. En continuant les consultations, en ayant ses collègues, enfin, en tout cas, jusqu'à un certain moment, elle avait ses collègues de Gaza aussi en ligne, parce qu'elle a, ces dernières années, pu commencer à les former des psys à Gaza. Là, elle n'arrive plus à les joindre. Encore une fois, je vous invite à aller... je sais que sur son Instagram, elle partage certaines formations qu'elle donne. Donc, il y a des extraits de aussi ce qu'elle nomme comme conséquence dans le génocide en cours. Que le fait qu'il y a un déni d'humanité, qu'il y a l'idée que leur vie ne compte pas, ça, c'est aussi générateur de traumatisme. Elle dit aussi que, de toute manière, pour avoir un travail thérapeutique, il faut un safe place. Il faut pouvoir se sentir à l'abri. Ce qui, aujourd'hui, de toute manière, n'est pas le cas. Donc, je me souviens, en fait, il y a une journaliste, peut-être la première semaine, qui lui a posé comme question « Ah, quelle intervention allez-vous faire à Gaza ?» Elle fait « Mais en fait, cette question n'est pas pertinente aujourd'hui. La première des questions, c'est un cessez-le-feu. La première des questions, c'est arrêter le génocide. » Elle parle aussi de comment, déjà dans le film, elle dit comment le traumatisme lié à la Nakba, donc ce mot en arabe pour dire catastrophe, qui est le début du processus colonial, donc l'expulsion de 2/3 des Palestiniens, 800 000 personnes. Mais c'est pas qu'une expulsion. Quand on dit le mot expulsion, on a l'impression, bon, bah, les gens vont d'un point A à un point B. Non, en fait, ces expulsions ont été synonymes de massacres, ont été synonymes de viols, ont été synonymes, comme c'est documenté, vous allez pouvoir trouver des articles dans Haaretz, sur la question des viols de l'armée israélienne pour évacuer, pour déporter les gens, en fait, et pour en faire des réfugiés. Et donc, ce traumatisme qui est à la base de l'histoire coloniale, entre guillemets, c'est toujours cette idée en cours, la menace de perdre sa terre, son habitation, de devenir un réfugié. Et évidemment que ce qui est en train de se passer là, c'est une accélération, une reproduction. Et c'est le but d'Israël depuis le départ. C'est un État colonial expansionniste. Ils veulent toute la Palestine et encore au-delà. L'idée, c'est de... voilà, Gaza est une bande portuaire, enfin, sur le littoral. C'est des terres, c'est des ressources. Donc, voilà, en fait, je l'ai entendu. Enfin, j'ai essayé de capter un peu quel savoir elle est en train de fabriquer actuellement sur ce qui est en train de se passer pour aider les gens, pour aider les thérapeutes. Elle fait un appel aux thérapeutes internationaux aussi. Parce qu'elle dit qu'il y a besoin de thérapeutes pour les aider à nommer, à retranscrire, à faire des rapports, à archiver ce qui est en train de se passer. Parce que à un moment, et c'est ce qu'elle dit dans le film, à un moment, Inch'Allah, il y aura un processus de justice. Et à ce moment-là, cette documentation sera importante pour mettre le colonisateur face aux faits, en fait. Donc, cette idée de pouvoir enregistrer, documenter, ça c'est essentiel.
Bah, je vous remercie. On va glisser à la seconde partie de cette émission où ce qu'on aura traversé dans la première partie va nous servir à questionner en fait ce qu'est le néocolonialisme en France aujourd'hui. Et pour ça, on va vous faire écouter l'extrait d'un documentaire de Yann Bey, À nos corps défendants.
L'État français s'est construit sur un amoncellement de corps meurtris. Il a chassé, tué, colonisé, enfermé et soumis en esclavage pour réaliser ses desseins. Une fois son empire colonial démembré, la France a importé sa main-d'œuvre, mais lui a refusé les mêmes droits que les natifs de la métropole. Colonisés de l'extérieur, ils sont devenus colonisés de l'intérieur. On leur a construit foyers et cités dortoirs, bars et tours de béton, qu'aujourd'hui on résidentialise en apposant des murs, des grilles et des codes, pour séparer les corps et mieux les contrôler. Ennemis à l'extérieur, ils sont devenus ennemis de l'intérieur. Le corps étranger suscite peur et fantasme. Il est indésirable, il angoisse le pouvoir. Dominer les corps, c'est dominer les esprits. Quand ils se sentent libres, il faut les ramener à l'ordre. C'est le travail de la police. Premier acte des violences d'État.
Cet extrait, en fait, fait l'ouverture aussi du documentaire de Yann B. Et il nous a paru assez judicieux, en tout cas, de le faire commencer cette seconde partie avec cet extrait-là, parce que c'est une manière de réellement questionner qu'est-ce qu'il se joue ici en France. Et d'ailleurs, du coup, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça a fait résonner en vous, cet extrait ?
Déjà, cet extrait est incroyable. Donc, je recommande aux auditoristes d'aller voir le documentaire qui est introduit par cet extrait percutant. Qu'est-ce que ça suscite en moi ? Ça suscite plein de choses angoissantes et merveilleuses. Je ne l'ai même pas noté, mais ça a fait sens par rapport à des discussions qu'on avait eues en amont, en off. C'est presque une citation, mais que je ne connais pas par cœur, du coup je vais essayer de la faire à ma sauce. Donc j'espère que la personne ne m'en voudra pas. C'est un prêtre qui s'appelle le prêtre Camara qui parle des violences. Qui dit qu'il existe trois types de violences. Il y a la violence institutionnelle, mère de toutes les oppressions, toutes les dominations, qui écrase les peuples. Il y a la deuxième violence, celle en réaction à la première, la violence populaire, la violence révolutionnaire, qui vise à l'émancipation, à la libération des populations, des terres, des cultures, des sciences. Et enfin, il y a la troisième, la violence de la répression, qui vise à éteindre la seconde et à renforcer la première. Ce que dit Yann B. dans son introduction, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi, hein, c'est une magnifique recontextualisation de ce que c'est le colonialisme, peut-être, cette doctrine qui vise à s'approprier les corps, les terres, les cultures pour des intérêts nationaux, entre guillemets. Et oui, c'est ça. C'est la violence avec laquelle on est dans un territoire, on est dans un territoire et on doit subir cette violence. Mais c'est aussi, indépendamment de nos luttes et de nos résistances, il y a aussi une répression sur laquelle il faut lutter. Ça me fait penser à ce glissement aussi qu'il y a entre... comme elle le redit très bien Yann B, historique, entre une France qui, comme on le disait tout à l'heure, qui s'assumait coloniale, qui s'assumait expansionniste, impérialiste, d'une France qui affiche des slogans liberté, égalité, fraternité, qui se dit humaniste, qui se dit des Lumières, mais de quelle Lumière en fait ? Et j'irais même jusqu'à dire, genre, pour revenir sur ce que je viens de dire moi-même, c'est que déjà, à l'époque du projet colonial français, il y avait aussi cette idée de « Non, mais on fait ça, c'est pour les civiliser, en fait. En fait, on est là, on est gentil. Hein. » Et ça renvoie aussi peut-être ce que tu disais tout à l'heure, Lucie, sur cette construction du récit de la personne sauveuse, la nation sauveuse, le sauveur blanc, même le sauveur colonial. On est là pour aider des gens. Et encore une fois, il y a toujours un décalage entre le récit porté officiel et les actions matérielles. Les traumatismes dont on parlait tout à l'heure.
Moni, du coup, du collectif Arar. Donc moi, je vais revenir un peu sur ce que tu viens de dire sur le colonialisme. Et je vais y ajouter un concept que j'ai découvert il y a peu, grâce aux travaux de Hannibal Quijano, qui en fait est parti de l'Amérique latine, donc ont été des pays colonisés, qui ont gagné leur indépendance du coup au début du 19e siècle. Mais Hannibal Quijano a voulu donc analyser de par son pays finalement le colonialisme, ce qu'il en était finalement malgré l'indépendance de son pays et des autres pays. Et en fait, il a amené un concept qui est la colonialité du pouvoir. Donc en fait, il distingue le colonialisme qui serait d'une époque donnée à la colonialité qui serait un phénomène qui persiste. Donc en fait, il montre que les structures sociales et économiques de la plupart des pays d'Amérique du Sud restent des structures coloniales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on y retrouve toujours, en général, une oligarchie blanche ou métisse qui monopolise le pouvoir, des grands propriétaires fonciers qui luttent contre la paysannerie pauvre, un rôle encore très important des multinationales européennes ou nord-américaines qui exploitent les richesses naturelles en lien avec cette oligarchie. Et enfin, les modes de pensée importés de l'Europe, toujours persistantes. Et donc, il propose aussi là-dedans une analyse du capitalisme international contemporain à travers une grille de 4 éléments qui sont les modes de contrôle ou la notion de pensée. Et du coup, il y a 4 modes de contrôle. Il y a le contrôle de la main-d'œuvre et du travail. Et donc là, c'était à l'origine à travers de l'esclavage et des discriminations raciales, la race étant évidemment l'invention occidentale du XVe siècle. Le deuxième étant le contrôle du sexe, donc le modèle dominant familial réduit à l'hétérosexualité. Le troisième étant le contrôle de l'autorité à travers la création de l'État-nation. Et le quatrième étant celui de l'intersubjectivité. Et c'est les manières de penser, les imaginaires, les épistémologies occidentales qui ont longtemps écrasé celles locales et qui continuent d'ailleurs à les écraser. Et en fait, ça va être les savoirs et savoir-être imposés par l'Occident. Avec cette analyse, il nous propose en fait de prendre une distance par rapport à l'épistémologie eurocentrique pour en fait pouvoir comprendre les mécanismes du colonialisme et donc de la colonialité, de tout ce qui en est resté derrière. Il faut en fait une mise à distance avec les savoirs institués, et notamment pour nous occidentaux, en fait, vu qu'on est situé en Occident. Il faut qu'on arrive, en fait, il nous propose de nous distancier de ça. En gros, il nous dit qu'en tant qu'Européens, il faut qu'on prenne du recul par rapport à nos concepts et que l'on s'oblige à les mettre en perspective par rapport à des traditions, des historiques, des contextes qui sont radicalement différents, et notamment par le fait de l'importance du concept de colonialité du pouvoir, que ces relations sont des relations asymétriques. Il y a donc une nécessité de produire des connaissances non hégémoniques, c'est-à-dire qui ne soient pas fondées sur une vision hégémonique du dominant, à savoir le colonisateur ou ses successeurs. Et donc c'est l'importance de créer nos propres récits aussi, et donc c'est un peu ce que ça m'a, c'est même totalement ce que ça m'a fait dans le documentaire et à travers son travail d'un point de vue santé qui est très central finalement dans les effets de la colonisation, parce que comme on le dit mais on le répète, la colonisation c'est à la fois celle du corps, de l'esprit et de la terre. Donc voilà le fameux triptyque.
Non mais je trouve ça hyper intéressant parce que moi ça m'a ramené en fait à la situation française et à essayer un peu de comprendre comment dans la structuration de la Ve République on pouvait reconnaître des éléments aussi bien au niveau d'organisation économique, d'organisation de la démographie, d'organisation de la société, quels étaient les éléments qui permettaient d'aller dans une analyse, toi tu dis de la colonialité, et on m'a proposé aussi le terme néocolonial. Et à partir de là, moi, je voulais vous lire juste un extrait. Il s'agit du fondateur de notre Ve République, Monsieur de Gaulle. C'était une lettre faite au garde des Sceaux, qui date du 12 juin 1945, et qui, je pense, va un petit peu nous éclairer dans la discussion sur tout ce qui a été formellement mis en place dans le traitement des populations ex-indigènes et futurs français. Sur le plan ethnique, il convient de limiter l'afflux des Méditerranéens et des Orientaux. Sans aller jusqu'à utiliser, comme aux États-Unis, un système rigide de quotas, il est souhaitable que la priorité soit accordée aux naturalisations nordiques. Donc là, on parle du système d'accueil. Sur le plan professionnel, la France a surtout besoin de travailleurs, directement producteurs, agriculteurs, mineurs, ouvriers du bâtiment, etc. D'autre part, pour conserver au pays son pouvoir d'assimilation, donc le terme est posé, il est nécessaire que les professions libérales, commerciales, bancaires, etc. ne soient pas largement ouvertes aux étrangers. Sur le plan démographique, il importe de naturaliser les individus jeunes ou ayant des enfants. Et ce qui est assez étonnant, enfin, moi, en tout cas, quand j'ai pris connaissance de cette archive, de cette lettre, ça a été de me dire qu'on a un rapport, en tout cas, aux archives et à l'histoire qui est très immédiate. C'est qu'on se concentre sur les faits médiatiques, par exemple, de l'ex-président ou de l'ex-garde des Sceaux ou de l'ex-ministre de l'Intérieur. On est à chaque fois étonné, en fait, de la gradation de considérations racialisantes, en tout cas, dû au traitement fait aux personnes issues de l'immigration, aux personnes racisées en France aujourd'hui. Et en tout cas, cette lettre, elle m'a permis de vraiment reconsidérer que dans le fondement même de l'État-nation français de la Ve République, c'était écrit noir sur blanc et le plan, en fait, idéologique est clair. Il y a une réelle différenciation entre les Suds et le Nord. Donc, toutes les politiques, on peut faire, il peut avoir un écho avec là actuellement ce qui se passe pour la loi Darmanin, liée aux questions de l'accueil des personnes étrangères. Sur le plan économique, la question de comment expliquer en fait une réelle différence, voire un gap, une barrière, une frontière, un mur entre les situations socio-économiques des personnes issues des diasporas en comparaison aux situations économiques des personnes françaises de souche. Deuxièmement, avec la limitation à certains métiers, bon, même si ça a un petit peu évolué parce qu'on est aussi à l'ère de l'ubérisation où en fait on encourage les populations issues des quartiers à s'emparer du statut d'auto-entrepreneur. Donc là, c'est ce qui est valorisé maintenant, s'il devient ton propre patron en gardant en fait le système précaire. Hein, tu vas pas devenir un chef d'entreprise avec plein de personnes, tu vas devenir ton propre chef à toi et en même temps on va pas forcément te mettre des garanties en tout cas pour que tu puisses le faire dans des conditions qui puissent te permettre de sortir d'une certaine forme de précarité. Et en fait ça m'a amené aussi à toutes les discussions qu'on a eues concernant une lecture géographique aussi et urbanistique de où se trouvent les personnes racialisées, les personnes des diasporas, les personnes des quartiers aujourd'hui en France, si ce n'est pas tous, en tout cas pour une grande majorité, elles se retrouvent dans des grands ensembles, dans des ghettos, des ensembles urbains ghettos. Et notamment, ce que j'ai trouvé intéressant dernièrement, c'est quand on a parlé du fait que ces populations-là sont amenées à vivre des situations de populations cafardisées. Et par rapport à ça, Saoudade, toi, tu avais une réflexion assez intéressante sur la notion de population cafardisée.
Cafardisée, cafardisation. En fait, c'était lié à nos discussions en amont qui disaient que... Parce que le but de cette partie, c'est de faire des ponts. Et ce qu'on a bien vu tout à l'heure, c'est ce que je recommande encore une fois à les gens, aller voir le documentaire réalisé par Alexandra Dolz avec la magnifique Sama Jabre. C'est comment les populations sont déshumanisées. Et Fatima Wassak, c'est de Fatima Wassak que j'avais trouvé ce terme-là dans son livre L'écologie pirate ou La puissance des mers, c'est l'un des deux. Bah, je recommande aussi les deux de toute façon. Elle fait un parallèle avec une série Netflix qui s'appelle Black Mirror et un épisode où des forces militaires voient des personnes comme des espèces de créatures étranges. Et en fait, c'est un dispositif qui est placé sur le corps des soldats qui en fait fait un filtre. En fait, il y a un incident où quelqu'un a un coup sur la tête et il se rend compte qu'en fait, ce ne sont pas des cafards. Ce sont des personnes qui semblent être des réfugiés. Ce sont des personnes qui sont cafardisées. Et c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce parallèle dans comment peut-être on dépeint les populations palestiniennes, comment on dépeint les immigrés, les personnes appartenant à l'immigration postcoloniale et les personnes des quartiers populaires. Et on peut même l'étendre à des militants de gauche maintenant. C'est la construction d'une figure... binaire qu'il faut anéantir. Ça renvoie aussi aux propos des syndicats policiers qui parlaient de nuisibles. Il y a cette idée-là, du coup, de déshumaniser. Et du coup, j'en lançais un autre de Fatima Wassak, elle parlait aussi de désenfantisation. C'est ce qui arrive, du coup, hein, par exemple, à Palestine. Comment on les considère comme des gens dangereux et du coup, on peut se permettre de les enfermer. Et ici, pareil, on a un jeune homme qui s'appelle Naël Merzouk, qui a été assassiné en live, on a des preuves. Et le policier a été mis de côté, mais il a toujours eu son salaire. Et finalement, il y a eu sa prime à 1 million. Et celle-là, elle n'a pas été arrêtée, cette cagnotte. D'autres cagnottes ont été arrêtées quand il y avait eu les gilets jaunes, par exemple. Mais du coup, voilà, il y a ce concept-là de désenfantisation des enfants. Et je dirais même, moi qui est dans l'éducatif, il y a aussi un truc d'infantilisation et de diabolisation des parents aussi. Parce que c'est les parents qui manipulent les enfants, en fait. Pour revenir encore aussi sur ce que tu disais sur l'aspect, tu parlais aussi toi aussi, Moni, de le triptyque corps-esprit-terre, bah, le territoire, où est-ce qu'on parque les, je m'y mets entre guillemets, les nuisibles, c'est dans des zones où elles vont être plus susceptibles d'attraper des maladies. On parle de racisme environnemental. On peut même faire un lien parce que la France, tu parlais aussi de géographie, Lauriane, c'est quoi la France? C'est pas que la France européenne, on pourrait même parler de la francophonie, mais c'est aussi la Kanaky, c'est aussi Mayotte, c'est aussi la Caraïbe. Et on parle de territoire, il va falloir qu'on parle de ça aussi, c'est les nombreuses affaires, non seulement de massacres où il y a eu des gens qui demandaient leurs droits, une augmentation de salaire pour mai 67 par exemple, mais ça peut être aussi comment ces territoires et ces corps ne sont pas considérés comme étant légitimes, n'appartiennent pas au corps légitime de la nation. Et du coup, bah, c'est l'affaire du chlordécone. Comment on a le plus haut taux sur la planète de cancer de la prostate. Et comment, là, du coup, on va rentrer dans le légal. Comment, lorsque l'on essaie d'utiliser les espèces de pseudo-contre-pouvoirs qu'on a dans ce pays, bah, on se retrouve avec des non-lieux. C'est ça. Et
justement, pour revenir sur le chlordécone, il se trouve que durant les lois, enfin durant les manifestations sur la réforme des retraites, je vais raconter une anecdote. On s'est retrouvé dans les rues avec un caddie ambulant, d'une radio ambulante en fait. D'ailleurs, je remercie Monique qui a été dans le coup avec nous. Enfin, l'idée, c'était vraiment d'aller au plus près des Français, Françaises, étrangères, habitant en tout cas le territoire et se sentant plus ou moins impliqués et impactés par ces questions-là. Et en fait, on s'est retrouvé avec un monsieur d'origine antillaise, guadeloupienne. Et on discutait et on en est venu aussi à un moment questionner en fait les mouvements sociaux ayant lieu sur les territoires ultramarins. Et ce à quoi il me réplique, oui, mais en même temps, c'est des populations aussi, faut savoir, enfin, il y a besoin d'ordre, quoi. Il y a besoin d'ordre. Voilà, je vois cette personne qui du coup en fait sans forcément maintenant voilà poser des comment on dit diagnostics, voilà, je me suis dit bon, une personne qui s'assimile fort en tout cas. Et là on creuse la discussion et finalement on finit par parler du chlordécone. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, qui avait quand même toute sa contenance, il commence à littéralement bugger en répétant 3 à 4 fois « Oui, mais c'est vrai qu'ils l'ont interdit aux États-Unis. Oui, mais c'est vrai qu'ils l'ont interdit ailleurs. Oui, mais c'est vrai que ça a été interdit. » Et moi, ça m'a frappé. Parce que voilà, on a cette discussion aujourd'hui qui tourne autour des questions liées aux troubles psychiques, en tout cas la santé mentale, quoi. Et là, j'ai réellement compris que la question de la non reconnaissance, en tout cas, le fait que c'est donné lieu à un non-lieu, voilà, ça a énormément affecté ce monsieur-là. Dans son identification de français. Parce que là, du coup, il pouvait s'assimiler sur autre chose, mais sur ça, en fait, on lui a renvoyé qu'il n'avait pas les mêmes droits et qu'il y avait une réelle distinction faite entre, en tout cas, les Français de la métropole et les Français des territoires ultramarins. Donc, c'est vrai que ça nous a aussi réellement, au sein de nos discussions, amené à questionner le regard porté sur le corps considéré comme le corps racialisé. Moi, ça m'a amené vers des lectures d'Edouard Saïd, notamment sur l'orientalisme. À quel point, en tout cas, pour quand on considère l'arabe, comment il y a tout un système, une construction culturelle qui nous amène, qui nous nourrit au biberon, tout à chacun, et qui nous amène en tout cas à façonner notre regard sur l'autre, sur l'étranger. Donc là, l'arabe en l'occurrence, l'oriental. Et ça aussi, ça m'a ramené à une discussion qu'on a eue pas plus tard qu'avant-hier, Diane, toi et moi. Diane qui fait partie du petit public qui est venu nous écouter, où on a parlé notamment du documentaire de Sikou, dans le noir, les hommes pleurent. Et où tu me disais que je peux te laisser le raconter de mieux que moi d'ailleurs, si tu veux prendre le micro. Le moment où en fait, se trouve que t'es amie, en tout cas tu connais Sikou. Et en fait, Sikou racontait l'espèce de rituel qu'il mettait en place, en tout cas de stratagème qu'il mettait en place à chaque fois pour rentrer chez lui le soir. Et là, je trouve ça très important que tu puisses aussi nous partager ça, parce que ça va construire notre discussion et ça va l'amener vers la question des représentations.
Bonjour tout le monde. C'est avec beaucoup d'émotion que j'écoute toutes ces pensées de haute qualité. Pour revenir à Sikou, donc Sikou Diabaté est un documentariste qui a fait un premier film qui s'appelle « Dans le noir, les hommes pleurent ». Film extraordinaire où il a ouvert la voie à 7 de ses potes sur la masculinité, la virilité, la sensibilité présente dans tout à chacun des hommes. Documentaire exceptionnel disponible en free sur YouTube. Et la dernière fois que j'ai vu Sikou, on était d'ailleurs rassemblés sur un projet qui s'appelle Démasculinisez-moi de Pascal Beugré-Tellier, qui est chorégraphe et penseur du coup sur ces questions-là, pour ouvrir justement tout le pan de sensibilité des hommes, parce que les hommes pensent beaucoup et il y en a beaucoup de très beaux présents sur la planète. Et donc Sikou me racontait que en fait il est obligé de prévoir 10 minutes de plus le soir quand il rentre chez lui, parce que il est épuisé en fait. Donc c'est un homme qui fait 2 mètres, qui est très bien fait, qui a une belle corpulence. Et en fait, quand il rentre le soir, des personnes passent leur temps à se retourner quand il marche juste simplement pour rentrer chez lui ou aller d'un endroit A à un endroit B. Et en fait, ces gens se retournent avec un regard d'effroi. Que va-t-il me faire, ce grand homme derrière moi? Et lui, en fait, il ne se rend pas compte, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est une haute violence pour lui. C'est juste un marcheur dans la rue. Et non, en fait, c'est un... espèce de présence qui pourrait nuire à l'autre. Et donc, en fait, pour se protéger de ça, puisque c'est assez systématique, malheureusement, pour lui, il a décidé de changer de trottoir, de changer de direction, pour ne plus être confronté à ses regards, alors que c'est une des plus grandes crèmes que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Et ça, justement, il est en train de développer quelque chose sur ça, en fait, qu'on est tous responsables aussi de ce qui se passe dans nos rues, on est tous responsables de ce qui se passe dans nos sociétés, et on est aussi tous responsables de ce qu'on ressent l'un les uns envers les autres, à l'intérieur, dans le silence. Puisque, voilà, beaucoup de gens sentent, mais peu s'expriment, finalement. Donc, c'est important que lui se porte porte-parole, justement, de cette folie collective, en fait, d'où on en est aujourd'hui, quoi.
Moi, ça me renvoie directement aux Amériques, aux États-Unis, années 20, 30. On est en plein système d'apartheid toujours, hein, et de ségrégation raciale. Et il y a vraiment cette question de criminaliser l'homme noir par rapport à la femme, qui est toujours en fait le premier suspect quand il y a une femme blanche qui meurt. Et il y a ce danger en fait que représente le corps racialisé, qu'il soit maghrébin, arabe, noir, ou même finalement autre, plus quand même, en tout cas en France, pour ces catégories de personnes-là. Et ce qu'on disait, c'est que le corps d'homme en forme de 20 à 50 ans, allez à peu près, athlétique, qui se tient effraie. Il y a une sorte de répulsion, attraction assez puissante qui fait en fait que ce corps-là est déshumanisé. Et ça va aussi nous conduire sur la question du traitement policier qui est fait à l'encontre de ces hommes noirs, arabes, en France, qui de prime abord, en tout cas, quand il y a une confrontation ou une rencontre avec les forces de l'ordre, sont tout de suite des éléments à neutraliser. Et par rapport à ça, Lucie, toi, t'avais aussi des choses à dire.
Oui, du coup, en entendant Diane, et sans aller jusque dans le voyage dans le temps des années 20 aux États-Unis, plus récemment, justement parce qu'on a introduit avec le documentaire de Yann B., lui, il a chapitré son documentaire... à partir de ce que fait l'héritage colonial français aux personnes racisées ici. notamment dans les quartiers dits populaires, parce qu'il y a plusieurs aussi, il y a une terminologie spécifique hein, entre quartier populaire, banlieue, quartier sensible. Donc je vous renvoie aussi au numéro 50 de Funambuliste, qui est le numéro francophone maintenant de cette revue, où il y a un article de Mathieu Rigous qui revient sur ces termes. Et donc le chapitrage de Yann B., il est sur humiliation, dont on a parlé aussi à propos du documentaire d'Alexandra, mutilation, dont on pourrait aussi faire le pont avec l'échelle dans laquelle vivent ça la population palestinienne, et la mise à mort. Et donc dans ce que tu disais, moi je repensais à deux personnes qui ont connu ça, les trois cas, enfin de l'humiliation à la mise à mort. Il s'agit de Lamine Dieng et de Babacar Gueye. Lamine Dieng, il a été tué par la police en 2007 à Paris, et Babacar Gueye a été tué par la police à Rennes en 2015. Et dans les deux cas, donc on retrouve à chaque fois la même rhétorique, à savoir qu'ils sont responsables de leur propre mort, que les policiers étaient en légitime défense, qu'ils avaient peur, malgré toutes les enquêtes engagées par les familles, tout ça arrive à des non-lieux. Dans le cas de Lamine Dieng, la famille est allée jusqu'à la CDEH, qui a dit que ça avait donc eu lieu et que ça n'aurait pas dû avoir lieu. Donc elle a condamné la France. La CDEH, c'est le Conseil de l'Europe. Alors, j'ai pas tout le... Il faudra qu'on redise que c'est la CDEH. C'est le dernier stade pour faire valoir une procédure, en tous les cas. Là où je voulais en venir, c'est que le policier, dans la procédure concernant l'arrestation et la mise à mort de Lamine Dieng, ce qu'il a demandé, parce qu'ils étaient 8, hein, et une des collègues devait faire la sécurisation autour de l'hôtel où vivait Lamine Dieng. Et ce que dit le policier, c'est qu'il a remarqué que Lamine Dieng avait des gros mollets. C'est inscrit comme ça dans la procédure. Et donc, il fallait le maîtriser. Et il a demandé à sa collègue de l'attraper par les chevilles pour pouvoir le faire chuter et l'immobiliser. Et donc, ça démarre comme ça. Il voit des mollets d'un grand homme noir qu'il considère dangereux, qu'il considère à arrêter. Bon, Lamine Dieng, il est mort étouffé hein, par 8 policiers dans le camion de police. Sa famille a fait un énorme travail d'information, de sensibilisation, d'enquête, comme toutes les familles qui ont perdu un proche des crimes de la police. Et Babacar Gueye, lui, c'est à Rennes, dans le quartier Maurepas. Et quand sa sœur a fini par avoir l'information que la police avait tué son frère, la police lui a dit qu'il avait une force surhumaine. Et donc, il fallait aussi le maîtriser. Donc, ça me fait penser à ce qu'on évoquait sur que fait la colonisation au corps des colonisés. On n'est pas sorti de là. On a utilisé d'autres termes, mais les logiques restent les mêmes. Donc moi, j'ai un peu de mal, finalement, je crois, avec les notions de néocolonialisme. Je crois qu'on y est vraiment encore, sur la manière dont sont quadrillés les quartiers populaires, sur la manière dont sont armés les policiers dans les quartiers populaires, sur la manière dont ils sont encouragés à harceler les habitants. Le documentaire de Yann B. montre ça parfaitement. Le harcèlement policier, l'humiliation des policiers contre les habitants, le fait de les accuser d'être à des endroits où ils ne sont pas, le fait de poser des actes qu'ils n'ont pas posés, de leur envoyer des amendes et des amendes et des amendes, des procès et des procès et des procès. Et ça, c'est quand même un processus extrêmement particulier qui, du coup, occupe beaucoup les personnes concernées. Elles passent une énergie folle à se débattre de ces procédures, puisque la loi... Les procédures légales, donc on revient sur la colonialité du pouvoir, les procédures légales servent aux dominants.
Ouais, la loi n'est pas de leur côté.
Rarement.
Sarah Amdi, on a aussi une des discussions qui avait énormément animé le petit comité là pour construire ce plateau. C'est aussi fait sur la cagnotte suite à l'assassinat de Naël, la cagnotte du policier. Là, la question, en tout cas, pour moi, à ce moment-là, parce que j'en avais discuté avec mes parents et avec pas mal de monde, c'est que je pense qu'en termes de symbolique et en termes de violence symbolique, la mise en place de la cagnotte, l'annulation de la cagnotte de la victime, qui a été clôturée, la non-annulation de la cagnotte du policier, les félicitations qui en ont suivi et le soutien de la part de certaines personnalités médiatiques, mais aussi de très hauts gradés appartenant au corps militaire et de la police. Et la somme astronomique qui a atteint cette cagnotte. Donc, je sais pas, là, on est à la troisième, quatrième violence symbolique. Si on parlait d'humiliation hein, tout à l'heure, c'est que tu te rends compte que le système, en tout cas, les soutenants de l'injustice ont les moyens. Donc voilà. Donc là, le rapport de force s'est manifesté comme asymétrique. Donc ça a été vraiment un énorme choc partagé. Et surtout, voilà, la cinquième humiliation, c'est que là, ouvertement, les médias, des hommes politiques, se placent du côté de l'assassin. Donc il y a inversion, et voilà, il n'y a pas de bien, de mal, mais en tout cas inversion de valeur. Et le fait que ça soit assumé, en tout cas. Et je sais que pour pas mal de gens, nous on en discutait en disant bah ça s'est toujours passé comme ça de toute façon, donc on sait qu'une partie du pouvoir en tout cas n'est pas du côté des personnes ni des quartiers, ni des banlieues, ni racisées, ni issues de l'immigration, et ni en tout cas porteurs de tout ça. Mais là, je pense que ça a été un des moments où vraiment la population a pu se scinder et puis de se dire bah en fait on fait partie du camp de ceux qu'on tue injustement. Et là je pense qu'en termes d'humiliation collective, ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu un tel coup. Et dans le documentaire de... Oui. Oui, dernièrement, update d'ailleurs, le policier est sorti. Et avec sa cagnotte, voilà. Et en fait, de toute façon, ça c'est un exemple. Mais ces derniers temps, on est un peu en crescendo d'exemples. Qu'est-ce qu'on fait à un policier qui ramène un ouvrage, qui ramène Mein Kampf à une formation contre l'antisémitisme? Qu'est-ce qu'on fait à des policiers qui maltraitent, humilient un de leurs collègues et en sachant que celui-ci est le seul, c'était le seul racisé. Voilà, là on est en fait à un moment où les symboles, où les actes symboliques se multiplient et sont de plus en plus assumés et sont de plus en plus glaçants, en tout cas pour une démocratie occidentale, on va dire ça.
Les dernières réformes qui ont eu lieu, les nouvelles lois qui se mettent en place, c'est un continuum quand même de l'oppression et de la volonté des différents gouvernements en France de poursuivre le contrôle des populations. On sort pas de ça concrètement. C'est ça. Mais du coup, il y a quelque chose de. Alors, c'est intéressant que tu aies introduit ça par effectivement le discours de De Gaulle là-dessus, parce qu'en fait, à partir de là, il y a Camille Gourdeau qui a fait une recherche pour articuler les recherches sur les politiques migratoires et les recherches sur le racisme. Parce qu'il y a la sociologie du racisme et la sociologie de la migration. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elles ne se parlaient pas beaucoup, ces deux sociologies-là, alors que ça paraît logique qu'elles ont beaucoup de choses à se dire. Et donc, elle a fait un travail avec d'autres hein, sur la racisation du fait migratoire. Et elle part justement de ce discours-là de Gaulle, qui cherchait donc à dire, sans aller jusqu'au quota, il s'agit quand même de favoriser la migration du Nord. Concrètement, il y a européenne en tous les cas, il y a quelque chose de ça.
De la migration, je peux me permettre de te couper. Vas-y. La migration européenne, maintenant, on va dire, il n'y a plus besoin pour depuis 2003. Il y a de carte de séjour pour un ressortissant du membre de l'Union européenne. Du coup, en fait, même dans les chiffres qui sont produits, c'est que en fait, il y a toute une partie de déplacements qui sont pas pris en compte et on se concentre sur
sur la migration subsaharienne, voilà. Et sur la migration maghrébine. Et du coup, c'est aussi une instrumentalisation. À l'endroit du public votant, pour leur dire à quel point ils ont bien raison de se sentir en insécurité et en risque de grand remplacement pour les plus extrêmes d'entre eux. Bon, je trouve qu'il y a quand même une logique qui est là depuis longtemps, qui résonne énormément avec d'autres pays colonisateurs et qui justifie que l'État doive contrôler les corps, les esprits des ennemis de l'intérieur. Qu'il a nommé comme ça aussi à une certaine période. Hein. Donc, ils ne peuvent pas complètement le faire jusque dans la loi. N'empêche qu'ils traitent les gens de cette manière-là. Tant et si bien que Mathieu Rigousse, il parle d'enclave endocoloniale. Je trouve ça plutôt intéressant comme concept, hein, de se dire les colonisés de l'intérieur. Saoudat parlait des Suds du Nord. Je crois qu'il le dit comme ça. Bon, je pense qu'il y a aussi ça qui joue. Et dans la militarisation des forces de l'ordre, aujourd'hui, on sait aussi que la loi ne leur suffit pas, qu'ils sont allés au-delà et que la gendarmerie et la police a eu accès à du contrôle facial, je sais pas comment on dit là, avec un logiciel. Et d'où vient le logiciel ? Les outils viennent d'Israël. Donc ils ont acheté les logiciels d'Israël pour faire l'enregistrement, la reconnaissance faciale, alors même que c'était illégal en France. Bon, donc moi je me suis dit, ben, la boucle coloniale est bouclée, les complicités sont bouclées, tous les nœuds sont en place, et donc il va bien falloir à un moment donné qu'on arrive à se faufiler dans ces nœuds-là, pour les visibiliser, pour les dénoncer et pour les délier, voilà.
Justement, en parlant de militarisation, justement le livre de Mathieu Rigouste, que je vous conseille aussi, La domination policière. Et justement, moi, ce qui m'a intéressé, ça a été la mise en place, en tout cas, des armes non létales, qui sont principalement utilisées lors de manifestations actuellement et tout événement qui est censé troubler l'ordre public. Et Mathieu Rigouste, il fait un travail assez formidable, on va dire, dans l'historisation de ce développement-là. Et je voulais vous lire un court extrait de son ouvrage, parce que finalement, on en revient à l'armée israélienne. Voilà, la boucle est bouclée. C'est un sous-chapitre. Une généalogie militaire et coloniale. Un pan important de la recherche sur le développement des armes non létales débute dans les années 1970 aux États-Unis dans un cadre militaire. C'est un think tank très lié au milieu de renseignement et des grands intérêts militaro-industriels, le Global Strategy Council, GSC, qui amène le Congrès à autoriser le développement d'une industrie des armes de basse intensité. Au sein du GSC, le colonel John Alexander promet alors une théorie de la paralysie ou de la camisole, selon laquelle il est préférable de provoquer la crise et le maximum de chaos dans les structures de l'ennemi plutôt que de le détruire. Pour cela, il conseille de doter les unités d'armement, moins que les taux, et d'étendre la recherche et l'industrie dans le domaine. Le secteur décolle à la fin des années 1980. Grâce à un vaste programme de financement du National Institute of Justice, dans le but de réduire le coût des nombreux procès intentés pour brutalité policière et renforcer de manière acceptable le socio-apartheid nord-américain. Appelé, entre guillemets, armes non létales, ces matériels de coercition visent un usage de la force efficace, mais qui ne suscite guère de réprobation.
Un processus similaire est à l'œuvre en France. Au début des années 1990, l'État adopte le concept de projection, visant à renforcer les capacités militaires pour la multiplication d'opérations extérieures, c'est-à-dire de guerres policières au sein de populations civiles. La Délégation Générale l'Armement, DGA, est chargée par le ministère de la Défense de développer un système d'armement opérationnel et acceptable, entre guillemets. Ces matériels et leurs méthodes d'emploi sont immédiatement transférés et reconvertis pour la police. Logique, ça c'est moi. Au ministère de l'Intérieur, le Centre Technique de la Sécurité Interne, CTSI, et le Centre de Recherche et d'Études de la Logistique de la Police Nationale, CREL, expérimentent, testent et adoptent ces nouveaux armements. Exemple type, les lanceurs de balles non perforantes. L'histoire des lanceurs de balles non perforantes est exemplaire dans l'impact de l'industrie de la coercition sur les mondes populaires et militants. Conçu et employé pour la première fois par l'armée israélienne à Gaza et par l'armée britannique en Ulster, le lanceur de balles non perforantes, communément appelé flashball, est une arme conçue pour le maintien de l'ordre colonial et militaire. C'est une arme faite pour soumettre une population, entre guillemets, en réduisant le risque insurrectionnel, lequel est multiplié par l'emploi d'armes lourdes contre la foule. Elle est faite pour immobiliser, pour capturer les individus insoumis, incontrôlables ou ingouvernables. Là, ça fait tout de suite écho. Ah bah, Alex, tu veux intervenir ?
Non, juste, ça me rappelle donc, je suis d'origine rennaise et en fait, les flashballs, Rennes a été une des premières villes à être dotée de flashballs. Et je me souviens d'une manif en 97, parce qu'en fait, les flashballs ont commencé à être utilisés contre le mouvement des teufs, l'organisation des teufs techno dans les champs. Et du coup, voilà, Rennes détentrice de flashballs en 97. Voilà.
Super. Ah, Diane aussi, tu voulais intervenir?
Je tenais à intervenir un petit peu sur l'immobilité ou la manière dont on capture des populations. Donc moi, je rentre du Liban, auquel j'ai passé un petit peu l'équivalent de 2 mois. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai posé beaucoup de questions. Je vous avoue que je brûle à l'intérieur et je suis traumatisée de notre réalité. Le Liban est tampon total de tout ce qui se passe, ultra fragilisé, on est à peu près, voilà. Bon, c'est une situation dramatique. Donc le Liban accueille des populations donc syriennes et palestiniennes depuis des décennies, suivant tous les fracas qu'il y a dans ces pays. Et j'ai appris, donc peut-être en termes de néocolonisation, je ne sais pas, mais qu'il y a une organisation silencieuse pour garder ces populations sur ces territoires-là. Quitte à ce que le Liban soit en l'air pour gérer toutes ces populations. Et tout ça vient de l'Union européenne. L'Union européenne vient de dealer un petit... on donne aux populations syriennes $500 par famille, de manière à ce que toutes ces populations syriennes, donc évidemment anti-régime al-Assad, ne se déplacent pas en Europe, puisqu'on sait que quand même, dès que les pays subissent des guerres ignobles, de folies collectives destructrices, avec énormément de peuples brisés, ils remontent vers les nords. Le nord, je ne sais pas comment on dit. Et donc aujourd'hui, c'est une stratégie du Nord de plutôt, en amont, mettre semi-confortable, on va dire humanisé, en donnant une certaine somme d'argent aux familles, de manière à ce que ces populations ne se déplacent pas pour venir foutre la merde dans nos Nords. Et on remarquera, donc moi déjà ces informations-là, donc c'est l'Union européenne qui paye la précarité de ces populations pour ne pas qu'elles bougent. C'est une situation soit dite d'urgence, mais qu'est-ce que ça va devenir, ça? Et on remarque un petit peu ces mêmes fléaux par rapport aux populations palestiniennes. L'Égypte refuse d'ouvrir le Sinaï pour accueillir les populations de Gaza. Pourquoi? C'est l'Europe a estimé définir ces populations comme de futurs terroristes. Évidemment, quand on prend l'exemple de... pour humaniser toujours, parce qu'on a une déshumanisation totale de ce conflit. Ce gamin de 8 ans qui s'est fait exploser sa famille à 20 cm de lui, que va-t-il devenir quand il aura 15 ans?
La grande peur des Libanais, c'est 2030. Qu'est-ce que vont devenir tous ces enfants polytraumatisés qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus de cadre? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir et quel type de nouvelle population ça va devenir, ça? Donc on préfère en fait les garder dans des camps pour étouffer évidemment leurs cris, pour étouffer leur existence. Et donc ce qui s'y passe aujourd'hui, c'est qu'on préfère bloquer ces populations et les injecter avec des ONG. C'est aussi aujourd'hui c'est des choses qui existent, mais c'est des choses aujourd'hui qui se renforcent, puisque saturation de tous les venants du Sud, polytraumatisés par des guerres en général, ou des catastrophes climatiques, etc., où la vie n'est plus possible sur leur territoire. Saturation de l'Europe, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va investir pour fixer les populations, ne plus leur demander leurs mots, etc., juste nourrissons-les et protégeons-les du vent et de la pluie. Globalement, c'est un petit peu ce qui se passe. Et donc, actuellement, pour les populations palestiniennes, c'est le monde entier qui décide si le Sinaï va s'ouvrir, si la Palestine va revenir pour eux, si ensuite le Liban peut continuer. Mais ce sont leurs propres argent qui décident du flux de ces populations. Et donc, on préfère les bloquer, les atomiser, plutôt que de réfléchir à un nouvel ordre des choses, quoi. Et donc, il faut quand même se dire que toutes ces décisions-là se passent. Donc ça s'est passé au Qatar, hein, dans un hôtel luxueux, évidemment. Ils sont tous venus dans leur jet privé, etc. C'est une somme d'argent colossale. Il faut bien dire que l'Europe injecte une somme d'argent colossale pour se protéger de ces populations polytraumatisées, complètement défoncées à tout. Les curseurs sont explosés. Donc on investit pour les garder sur ces territoires, dans des camps, où chaque bâche... J'ai été dans les camps de réfugiés au Liban, dans le sud. Les logos des ONG sont vus du ciel énormes, de manière à faire des drones comme quoi on va les aider. Mais en fait, c'est on se protège de cette merde polytraumatisée qui va arriver chez nous.
Du coup, moi je voulais juste, avant de continuer, j'ai l'impression qu'il faut que je me situe avant de prendre cette prise de parole. Du coup, moi je suis une... meuf trans, blanche, neuroatypique. Moi, je voulais revenir sur un truc qui a été dit au tout début, ça rebondit sur plein de choses, mais par rapport aux lumières, par rapport à ce que l'Occident se prétend comme la lumière, il y a un truc très fort en France qui est même un des concepts centraux de comment on va justifier la France, sa colonisation. Ce qui a structuré même la République et sa propagande coloniale, c'est le terme d'universalisme, qui sert à masquer, parce que la France va justifier le fait qu'elle est universelle et qu'il n'y a pas de racisme au sein de sa terre, et qu'elle est juste porteur d'un message civilisationnel, car elle est la détentrice de tous les savoirs du monde, et c'est son devoir de le transmettre au peuple qu'elle va dire comme terroriste. Et cette propagande par l'universel et le... par l'universalisme et le message civilisationnel, il se voit très fort aujourd'hui par la propagande coloniale internationale depuis le 11 septembre, qui est la propagande par le fait qu'il y a des peuples qui sont des peuples terroristes, qui ont justifié je ne sais combien de guerres impérialistes et les conséquences qui vont avec, et qu'on voit très fortement dans la propagande israélienne et encore dans la propagande internationale de ce qui peut être qualifié, de comment on va justifier le génocide qui est fait, même tout le processus colonial, que comme le peuple palestinien est un peuple de terroristes, qu'on va justifier aussi tout ce qui est en train de se passer. Là, c'est les mots même des dirigeants israéliens, que ce sont des animaux, que c'est un combat entre la lumière et les ténèbres, qu'elle a un énorme impact parce qu'elle est aussi liée par quelque chose qui est fort aussi dans la propagande israélienne, qui est le pinkwashing, qui vise à vouloir instrumentaliser les luttes queer, les luttes transpédéguines, pour faire croire que en terre palestinienne il n'y a pas de queer, et que la terre israélienne est une terre d'accueil, une terre promise pour les personnes LGBT, qu'elle défend ces droits-là. Il y a juste à dire que ce pinkwashing est atroce, quand on peut voir les conséquences que ça a, quand on voit le soldat de Tsahal qui ose brandir le drapeau LGBT en criant au nom de l'amour, sous les décombres de Gaza. Il faut juste se dire que cette propagande, elle reste qu'une propagande, parce qu'en rien Israël et en rien les pays impérialistes et en rien les pays colonisateurs sont des défenseurs des droits LGBT. C'est des pays patriarcales et ça, il faut le rappeler. Que même la colonisation elle-même est un crime patriarcal, est un crime colonial. Si on se dit d'un féminisme, il faut se dire aussi allié ou même porteuse des luttes décoloniales et donc des luttes palestiniennes. Il faut savoir que j'invite tout le monde et toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir un manifeste des queers palestiniens qui rappelle qu'en fait il n'y a rien de ténèbre dans la lutte palestinienne. Que leur lutte à elle, leur lutte en tant que queer, elle se comprend dans la lutte de libération de la Palestine. Et que la première violence à laquelle ils font face, c'est la violence colonisatrice. Et qu'on ne peut pas parler de droits LGBT dans un pays qui subit la violence coloniale continuellement. Et ce manifeste, il peut se retrouver dans la page Insta Queer for Palestine ou Queer in Palestine, je ne sais plus trop. Je voulais aussi rappeler que, en tant que blanche, moi je dois prendre mes responsabilités en tant que personne qui profite du système colonial en France. Et du coup, je me considère comme criminel, mais comme je me considère comme criminel, je prends mes responsabilités. Et en prenant mes responsabilités, j'aimerais dire que moi, je suis queer, je suis une meuf trans, et qu'en rien, ce génocide, il pourrait être fait au nom de ma lutte, en instrumentalisant ma lutte, que je me positionne, et que je me positionne en soutien de la lutte de libération de la Palestine.
Ok, merci beaucoup, ça me touche énormément ce que tu viens de poser. Merci beaucoup. Derrière les fronts, je l'ai sorti en 2017. Il a été, je sais pas, il a pas du tout été porté par le champ féministe et le champ queer. Moi, je suis une réalisatrice lesbienne et musulmane. C'est la première fois que je le pose de cette manière-là aussi. Mais du coup, c'est hyper important pour moi qu'il y ait des personnes queer qui et féministes qui rappellent que la question palestinienne est une question féministe et que Israël, dans son projet colonial, est de fait un projet antiféministe et de fait un projet homophobe. Et une des choses que je voudrais rappeler, en dehors du fait que chaque Palestinien, Palestinienne queer à un checkpoint n'est pas vu en tant que queer, est vu en tant que Palestinien ou en tant que Palestinienne, donc subit exactement la même violence coloniale. Mais en plus de ça, ce qui est une réalité des personnes queer là-bas, des personnes queer palestiniennes, quand on lit la lettre de l'unité 8200, qui est une unité du renseignement israélien, qui est consacré à la surveillance et l'espionnage du quotidien des Palestiniens et des Palestiniennes. Il y a eu un courrier qui est sorti sur cette unité 8200 et les déserteurs de cette unité sur ce qui se passait à Gaza. Et leur but était d'espionner le quotidien et de trouver les personnes qui n'avaient pas des sexualités dans la norme, donc c'est-à-dire les personnes queer palestiniennes, et également les personnes hétérosexuelles qui pouvaient être impliquées dans des relations amoureuses ou sexuelles en dehors du mariage. Et également de trouver les personnes qui avaient des besoins médicaux pour tout ça et qui ne pouvaient pas être traitées à Gaza. Et tout ça de manière à les faire chanter. Le système colonial s'appuie sur le chantage aux personnes qui ne sont pas dans les normes pour les transformer en collaborateurs. Et ça, c'est une réalité structurante de l'identité queer là-bas. C'est la surveillance de sa vie intime, de sa vie sexuelle. Quand on connaît les technologies qui sont développées par Israël, je parle pas des drones, je parle pas des écoutes, je parle de caméras de surveillance qui ont la tête, qui ont la taille d'une tête d'épingle. Tout est fait pour, encore une fois, diviser le peuple aussi, parce que c'est aussi vouloir donc transformer des personnes queer en collaborateurs, alimenter l'idée que les Palestiniens seraient par essence homophobes, parce que c'est ça aussi une logique de déshumanisation. Nous incarnons la démocratie et le progressisme versus les Palestiniens, il n'y aurait pas d'acceptation. Et tout ça, voilà, c'est une réalité matérielle pour vraiment dire que, en plus du fait que, évidemment, il y a de la transphobie et de l'homophobie au sein de la société israélienne, entre Israéliens et Israéliennes. Moi, quand j'y étais, il y avait quand même eu un assassinat en pleine Gay Pride à Tel Aviv, hein. Donc, voilà. Mais en plus de ça, ils utilisent l'homophobie de la société palestinienne, qui existe comme dans toute société, en la nourrissant et en la perpétuant, et en créant des, et en voulant faire du chantage pour avoir des collaborateurs. Et à ce titre, en fait, dans Derrière les fronts, il y a l'interview de Khadir El Shafi, donc qui est une des co-directrices de Aswat, qui est une association de queer palestinien basée à Haïfa, et qui est aussi redoutable dans son analyse du pinkwashing.
Juste pour rebondir sur une chose que tu as dit, un mot extrêmement important, tu as parlé de, quand tu t'es situé, tu as parlé de, non pas de culpabilité, mais de responsabilité, et je trouve que c'est un mot important, parce que c'est un mot qui donne la place, l'envie et l'énergie de d'agir.
Merci, on va parler justement dans cette troisième partie de notre pouvoir d'agir, et on va parler du sous-mood de la résistance et comment contrer l'Empire. Et je vous laisse avec un court extrait sonore d'un discours d'Aimé Césaire.
Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on l'accepte, une fillette violée et qu'en France on l'accepte, un malgache supplicié et qu'en France on l'accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne.
Et on vient d'écouter un discours d'Aimé Césaire. Je vous invite à écouter le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Et on se retrouve pour la troisième partie de cette rencontre qui parle de résistance, du sous-mood et de comment contrer l'Empire. Et il y avait cette question que je me suis posée et que j'aurais bien aimé que tu... En tout cas, que tu essayes de faire comprendre aux auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le sous-mood, Alexandra?
Ok, je vais essayer de restituer la définition de Sama dans le film. Donc, le sous-mood, c'est un mot arabe qui est lié à la culture palestinienne, qui existe même depuis la fin du 19e siècle. Et en fait, c'est l'idée, c'est un concept qui précède la notion de résilience. Et c'est une idée qui pourrait englober cette idée de résilience, mais qui la dépasse. Parce qu'en fait, c'est l'idée de faire face à l'oppression. C'est l'idée de, à la fois individuellement et collectivement, et c'est l'idée de guérison, c'est l'idée de comment trouver le chemin de guérison face à un trauma, mais pas uniquement dans une approche de développement personnel ou une approche libérale qui voudrait atomiser l'individu, mais vraiment considérer que ce chemin de guérison, il est à la fois individuel et collectif, et qu'il se fait en défiant l'oppression. Et donc, du coup, dans le film... Pour elle, tout ce qui est manifestation de garder l'identité palestinienne, la mémoire de la société palestinienne, de sa culture, ça fait partie du sous-mood. Elle dit par exemple un travailleur qui, malgré les difficultés dans laquelle ça peut le mettre, mais qui va refuser de participer à la construction du mur de séparation, un commerçant qui, pareil, malgré l'impact sur les entrées d'argent, va refuser de vendre des produits israéliens. Elle dit aussi que le soumoud, c'est aussi les parents qui continuent de vouloir éduquer leurs enfants et de vouloir continuer de vivre, tout simplement, en fait, de continuer de vivre sur cette terre palestinienne et de ne pas lâcher, en fait. Tout ça, c'est du soumoud, en fait. C'est de tenir, c'est d'entretenir la beauté de l'esprit, de l'âme, de la culture palestinienne. C'est très vaste. Il y a une autrice palestinienne qui a écrit également le soumoud dans les prisons palestiniennes, de la part des prisonniers. C'est tous ces prisonniers et prisonnières qui se mettent en grève de la faim pour contester les conditions de détention, pour contester la détention administrative également. C'est l'étincelle de vie, c'est le fait de ne pas capituler. Mais encore une fois, je reviens sur son idée que la capacité d'agir, que la résistance est thérapeutique, selon Sama Jaber. C'est le fait de ne pas devenir des ombres de nous-mêmes, comme ce que vise le projet colonial, c'est thérapeutique. Après, un des derniers textes de Sama, elle dit bien que... Et j'ai essayé de faire attention à ça aussi dans le documentaire. De ne pas romanticiser le soumoud palestinien. Dans le sens où une déshumanisation possible de ce peuple, c'est de considérer que, entre guillemets, ils seraient des surhommes. Et que, finalement, oui, encore ça, mais bon, ils ont l'habitude et puis ils savent comment rebondir. En fait, il faut pas non plus tomber dans une espèce d'héroïsation où, comme s'ils étaient capables de tolérer l'intolérable, de sortir d'un génocide. Non, en fait, il faut aussi, il faut trouver cette espèce de voie entre, voir l'héroïsme et le côté épique, bien sûr, de cette lutte et de leur ténacité et de la claque qu'ils sont en train de nous mettre et du rappel qu'ils sont en train de nous faire dans leur résistance et dans leur capacité à toujours vouloir se libérer, mais en même temps à pas non plus fantasmer cet enjeu-là.
Justement, le soumoud, on le voit, en tout cas moi dans le film, je l'ai vraiment perçu aussi avec la solidarité intercommunautaire, religieuse. C'est vrai que le témoignage de l'archevêque, il m'a, moi, à plus d'un titre, énormément touché, parce que il ramenait, on va dire, l'identité palestinienne à, on va dire, à une société plurie, qui est fait d'une multitude d'individus, d'une multitude de confessions. Et lui aussi, il parlait du soumoud. C'est qu'il a ramené, en fait, le soumoud comme vraiment faisant partie du patrimoine collectif que tout le monde se partage, que chacun peut tirer. Et toi, tu parlais tout à l'heure, en fait, de la capacité, on va dire, du système israélien de jouer de division intercommunautaire, division aussi au sein de la société selon l'orientation sexuelle ou le genre. Et ce que moi j'ai trouvé réellement fort, c'est une affirmation, parce qu'en fait c'est aussi un des moments où tu vois ce personnage qui est très ancré, qui en tout cas aussi a une aura assez assez forte, se positionner en tant que membre d'une société qui a à lutter dans sa pluralité contre un système donné. Et du coup là, le soumoud, on va dire en termes de spiritualité, ça m'a permis de traverser tout le film sur le fait que la situation en Palestine, c'est pas juste une essentialisation, comme tu disais, d'un peuple forcément musulman, forcément d'une orientation sexuelle, forcément avec des idéaux particuliers, mais une multitude d'individus qui, d'une certaine manière, épousent la cause palestinienne et qui la laissent traverser dans leur quotidien. Et justement, par rapport à la spiritualité, toi, t'avais aussi une lecture de ce film qui se ramenait en tout cas sur ces questions-là.
Sur la question de la spiritualité, déjà peut-être rappeler que ce qui se passe en Palestine n'est pas un conflit religieux. Déjà poser le fait que ce n'est pas un problème de cohabitation de juifs et de musulmans. La Palestine, de tout temps, il y a eu des juifs, des musulmans, des chrétiens palestiniens. Donc on a vraiment affaire à un problème de colonisation de peuplement avec une instrumentalisation de l'antisémitisme. Ceci étant posé, il se trouve que, comme on l'a dit précédemment, le colonialisme israélien s'attaque à la multidimensionnalité du peuple palestinien, à sa culture, à sa mémoire, à ses terres, à des choses matérielles, mais à l'immatériel aussi. Et que, effectivement, le colonialisme israélien s'attaque aussi aux conditions de la spiritualité, aux conditions de la transcendance. Que ce soit dans l'accès aux lieux de culte, mais ça à la fois pour les chrétiens et les musulmans. Donc je rappelle que les Palestiniens de Jordanie ou de Gaza ne peuvent pas accéder à Jérusalem. Ils n'ont pas le droit. Je sais pas, nous on a rencontré des gens pendant le tournage, des jeunes en Cisjordanie. Ils avaient des photos dans leur portable de Al-Aqsa, du Dôme du Rocher, mais ils n'avaient jamais pu y aller eux-mêmes. Nous, on avait ce privilège avec le passeport français de pouvoir passer les checkpoints et d'aller à Jérusalem. Mais il y a déjà un vol et un empêchement d'avoir accès à l'Aqsa et le troisième lieu saint de l'islam. Et pareil sur les lieux de culte chrétien. Voilà, Jérusalem est une terre très importante aussi dans l'histoire biblique. Et également, les propriétés chrétiennes sont en train d'être mangées et d'être volées par le colonialisme. Donc il y a déjà matériellement un enjeu d'accès aux lieux de culte. Ensuite, sur l'attaque, ça me rappelle un passage du film où Sama dit comment quand on peut être soumis à un tel niveau d'oppression et de torture. Elle parle d'un témoignage d'un survivant de la torture des prisons israéliennes, très croyant, impliqué dans une association islamique et qui a dit qu'il a eu la pensée, mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le sens où, dans le genre de moment, voilà, comment ça peut mettre en crise existentielle et de foi et ébranler les valeurs fondamentales, cardinales qui te font tenir debout. Et le pendant, c'est que effectivement la question de la foi, moi je pense depuis très longtemps et depuis le premier film sur Mujahidat, la question de la foi peut être mise au service de sa libération et d'une libération collective. La foi peut être un moteur à des luttes d'émancipation. Elle peut être, ok, les religions organisées, les institutions religieuses peuvent être génératrices d'oppression et de reproduction d'oppression, mais elles peuvent être aussi au service des luttes d'émancipation. On voit les images actuellement, on voit comment les gens, avec le sentiment qu'il y a une réalité d'être abandonnés, par les institutions internationales, abandonnées par les dirigeants, clairement s'appuient sur leur foi et leur croyance. Et peut-être même qu'aujourd'hui, dans les gens qui nous écoutent ou ici sur le plateau, c'est aussi quelque chose qui nous permet de tenir. Moi, à titre individuel, en tant que croyante, bien sûr que je m'interroge et j'essaye de trouver... C'est difficile parce qu'on essaie de se dire quel sens ça a, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Comment s'appuyer sur quoi? Et je crois que la foi est un de mes piliers. Et c'est ce qu'explique Sama dans le Soumoud. C'est très important dans le peuple palestinien aussi.
Je reviens sur le Soumoud. Parce que je trouvais ça, j'avais repris quelque chose que disait Sama lorsqu'elle parlait du Soumoud. Et là, en me relisant, je revois que ça fait triptyque, comme celui qu'on combat, du coup. et dans lequel elle disait que c'était l'idée de libérer l'esprit palestinien, qu'il fallait trois choses finalement. Libérer l'esprit palestinien, le peuple palestinien et l'identité palestinienne. Et finalement, la colonisation, le colonialisme, où qu'il soit, en fait, c'est ce qu'il fait profondément, en fait. C'est à partir du moment où il arrive, il détruit le peuple, il détruit l'esprit du peuple et il détruit sa terre. Et du coup, j'ai plus l'impression que là, en fait, avec tout ce travail-là, on voit finalement que c'est des invitations à justement se réapproprier ce qu'on nous a pris, à refaire vivre aussi de par les récits, parce que, en fait, on l'a dit plus ou moins à chaque fois à travers les témoignages, le travail de Sama au niveau de la santé, mais même au niveau de pour les prisonniers, parce qu'on a quand même eu plusieurs témoignages de prisonniers, prisonnières. Et la force des récits aussi, dans ce cadre-là, est hyper intéressante. Et en plus, si on revient au plus près de nous, on voit en fait à quel point les récits sont utilisés par les pouvoirs en place. Et c'est toujours un récit qui va dans un sens, dans l'idéologie dominante finalement, et qui va évincer tous les autres récits. Alors qu'en fait, plein de récits contradictoires, on en a. En fait, il y en a eu, il y en aura encore, parce que des résistances, il y en a toujours eu, faut pas croire. À chaque fois qu'il y aura une oppression, un système d'oppression émanera des résistances, quelles qu'elles soient, même si elles sont minimes, il y en aura toujours. Ça s'est vu historiquement, ça s'est toujours vu, en fait. Là, on le voit complètement avec la Palestine, parce qu'il faut pas oublier que ça fait 75 ans. Là, une partie de la population, des populations se réveillent plus ou moins depuis le 7 octobre et encore. Mais ça fait 75 ans que cette population elle est sous colonisation. Donc voilà, je pense que moi, ce que je retiens aussi du Soumoud, c'est ça, c'est qu'il y a une vraie invitation à finalement contrecarrer les outils de la colonisation pour nous, en fait, réinvestir les champs qui nous ont été pris. Et donc les champs, c'est aussi les champs, là on en parlait tout à l'heure, intellectuels, parce que encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, mais je l'ai mal dit, il y a eu beaucoup de grandes personnes qui ont en fait, pour certaines, pris quasiment leur vie en fait pour travailler sur ces thématiques-là, des travaux qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne diffuse pas. Et je dis bien qu'on ne diffuse pas, mais en Occident, et que c'est voulu, en fait. Et en fait, c'est des choses qui ne sont pas... Elles sont déjà pensées, en fait, et ça ne veut pas dire qu'elles sont arrêtées, c'est-à-dire qu'il faut continuer à les penser, mais je pense qu'on est tous dans un état plus ou moins de sidération à des degrés différents, et en plus, on se sent tellement seul. Quand on voit, en fait, l'idéologie dominante, on a l'impression qu'ils sont majoritaires et qu'on est la minorité, parce qu'on nous dit tout le temps ça, en plus, c'est un peu le... C'est aussi toujours la même chose, minorité, majorité, la bien-pensance est majoritaire, et puis les autres, c'est, voilà, on va les diaboliser, c'est, vous n'avez rien compris, vous ne savez pas, on sait, on est des sachants, et vous êtes juste des idiots. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est redonner confiance aux gens, et leur redonner ce pouvoir d'agir, en fait, et c'est ce qu'elle relève encore une fois avec le Soumoud, c'est vraiment le pouvoir d'agir, en fait, contrairement à la résilience qui s'arrêterait à l'état d'esprit, finalement, le Soumoud, c'est une invitation à agir, et en plus, cette invitation à agir, elle est libératrice parce qu'à partir du moment où on se sent capable d'agir, on sort de cette situation d'enfermement dans laquelle le colonisateur nous a mis volontairement et veut nous garder jusqu'au bout, en fait. Et que ce soit le colonisateur assumé, comme là l'État d'Israël, parce que c'est littéralement une colonisation depuis 75 ans, ou alors les colonisateurs non assumés et pernicieux qui ont changé les termes et les outils, et même pas les outils en fait, mais surtout les termes finalement, dont on fait partie, et beaucoup de pays d'Occident font partie, notamment l'Europe, puisque l'Europe, on sait comment elle s'est montée, les États-Unis, même pas besoin d'en parler finalement. Invitation à agir, ne rien lâcher, les récits c'est important, et ah oui, si, une dernière chose, c'est un peu brouillon, je le dis comme ça, mais l'histoire, on a des archives de partout, on a des outils divers et variés, que ce soit des vidéos, des audios, des lectures, des articles, même des trucs beaucoup plus vulgarisés, on en a. Donc, je sais pas, faut aller chercher, faut s'organiser, même en petit groupe, même en gros groupe, même en, même si on s'y connaît pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de mauvais moment pour commencer. Par contre, il y aura toujours un regret à jamais avoir fait, finalement.
Mais non, justement, Moni, je trouve que ça rejoint tout à fait le besoin de se réemparer de nos narratifs et aussi le besoin de réinvestir des représentations et d'autres formes de culture. Et justement, j'ai une petite question, Alexandra. Comment toi, t'as pu essayer de mettre, t'as essayé en tout cas de travailler avec des artistes, des autoristes ou des personnes issues du milieu culturel palestinien pour ton film?
Alors, comme le générique infini de mon film le montre, on a bénéficié de beaucoup de partage d'artistes de leurs œuvres pour apporter toute cette beauté au film. Au niveau de la bande son, je me suis appuyée sur tout un patrimoine musical qui parle de la Palestine et ou plus largement de la musique arabe, Shadia Mansour, donc une Palestinienne mais basée en Angleterre. Shir Imam, c'est un Égyptien mais qui a fait des chants pro-palestiniens. Il y a aussi un Abderraouf Ouartani qui est un joueur de oud français, enfin basé en France, franco-tunisien. Il y a cette très belle bande-son qui a été faite par... deux Marseillais, dont un qui est décédé depuis, paix à son âme. Ils ont fait un travail formidable aussi dessus. Il y a des photojournalistes qui m'ont aussi donné les droits de leurs photos. Hamdeh Abou Rahma, photojournaliste palestinien. Oren Ziv du collectif Active Style. Ça, c'est encore des collectifs. Active Style, c'est encore un collectif en cours où, ils photodocumentent ce qui est en train de se passer à Gaza. Et en Cisjordanie, il y a des images, des affiches du Soumoud à travers le temps. Il y a. C'est massif. J'ai été chercher un peu plein d'apports et d'ajouts. Parce que pour moi, la Palestine, c'est aussi un des personnages du film. Et ses paysages, et sa lumière, et ses productions culturelles, artistiques. C'est ça aussi, c'est pas, je veux dire, la Palestine, c'est pas que des récits d'oppression. C'est de la vie, en fait. Une vie qui persiste, en fait. Donc, fallait restituer la beauté et l'amour que je peux ressentir pour là-bas, ouais.
Oui, dans les formes de résistance en tous les cas et qui nous lie ici avec la population palestinienne là-bas, il y a la manière de relayer la campagne BDS, donc Boycott des investissements sanctions, qui est une campagne qui est née en 2005 à l'initiative de la population palestinienne, qui existe depuis 2009 en France. Et donc... ces trois, on a beaucoup parlé de triptyque, là aussi il y en a un. C'est-à-dire que chacune, à son échelle, on peut essayer de ne pas subir, de lutter contre la complicité de la colonisation et de l'apartheid, du génocide, des crimes contre l'humanité faits contre la population palestinienne. Et on peut le faire à partir de comment aussi ne pas être complice de l'invisibilisation des luttes palestiniennes. L'idée, c'était d'être finalement le plus connecté possible à leurs besoins, à leurs revendications aussi, à là où ils en sont. Et donc, le boycott, c'est de se dire, en gros, pour schématiser, je cible à qui je donne mon argent. Et donc, je boycotte les endroits qui, eux, sont complices de la colonisation et de l'apartheid. Donc, la campagne prévoit une stratégie ciblée de structures commerciales, universitaires, sportives, à boycotter. Elle prévoit aussi le désinvestissement, donc le plaidoyer et les pressions faites pour encourager les entreprises et les structures universitaires et culturelles et sportives de se désengager de partenariats commerciaux avec les structures coloniales en Israël. Et les sanctions, un jour peut-être, arriveront à l'échelle des décideurs des sanctions, notamment peut-être le tribunal international, la cour internationale peut-être, éventuellement. Certains sont en train de monter des pétitions. Il y a des groupes d'avocats qui sont en train d'agir aussi pour faire avancer cet échelon-là. Il est de plus en plus important. Il y a plein de pays qui se sont mobilisés sur cette campagne. En France, c'est toujours un peu particulier, hein, parce qu'effectivement, on fait partie des pays qui ont dû subir une forme de criminalisation de cette campagne-là, jusqu'à aller à faire valoir des jurisprudences pour pouvoir le faire. Donc ça y est, la jurisprudence est du côté de la campagne BDS. Ce n'est pas illégal et ce n'est pas, pour le moment, ils ont lâché un peu la bride, mais ce n'est pas antisémite, parce que c'était aussi une des accusations. Donc on peut, chacun, chacune, se renseigner sur ces campagnes-là, se former, se regrouper. Je pense que moi, ce que je comprends un peu du sous-mode aussi, c'est cet aspect-là de refaire communauté. Je trouve que dans tous les cas, moi, c'est quelque chose que je connais moins, de faire communauté. Aussi sans doute parce que je fais partie des gens qui se sont déliés de la spiritualité et de la foi, et que quand même une des forces de la foi, c'est aussi de garder des liens communautaires, de garder des liens de collectif et de faire des choses ensemble. Donc il y a d'autres chemins pour le faire. Moi, je reconstruis ça, je retisse ça, je pense, de là où j'en suis. Oui, l'internationalisme, effectivement, il y a deux... C'est ça, c'est comment on se raccroche à des collectifs, à des communautés qui construisent un récit ensemble, qui construisent des actions ensemble et qui défont petit à petit aussi toute cette oppression-là. Donc je pense qu'il faut qu'on continue ça très fort.
On arrive déjà à la fin de cette rencontre. Je te remercie, Alexandra, d'avoir accepté cette invitation qui devait se passer, et je suis très heureuse qu'elle se passe plus tôt, mais en tout cas qu'elle dans ces conditions-là aussi. Je remercie Saoudat, je remercie Lucie, Moni, merci d'avoir accepté de monter ce plateau à nos côtés. Et merci au public, des personnes qui sont venues nous écouter et d'avoir accepté d'intervenir aussi, de prendre le micro. C'est faire preuve de courage. Et en tout cas, je vous remercie, vous, de nous avoir écoutés, et à bientôt sur la R22, tout le monde.
Santé mentale, état du monde.